Don't go. Bah, vous aussi, don't go, restez là, hein. Vous êtes là, ouais, bougez plus maintenant. Hein. Vous êtes coincé. j'ai noté tous les pseudos dans le chat. Et même en ligne. Le premier qui part, hein, ça va chier. Remontons le moral de chacun, envoyons de l'amour et de la force. J'ai vu plein de petits messages mignons. J'ai vu une maman qui attendait un heureux événement pendant quelques mois, qui allait à l'hôpital pour un petit truc vite fait ce matin. Voilà, mais ça a l'air de bien se passer. J'ai vu quelqu'un qui allait passer un examen de physique, qui allait se faire déchirer, soi-disant. The Troudon, bonjour tout le monde, j'ai examen de physique aujourd'hui, je vais me faire déchirer. Je lui ai répondu non, tu vas tout déchirer. On connaît tous l'angoisse de l'examen, du DST, hein, du partiel, que sais-je. Voilà. On n'a pas forcément révisé comme il aurait fallu. Eh ben, c'est pas grave, le jour J, on donne tout, on se mobilise. Voilà. On limite la casse, on s'hyper concentre. Et puis, au moins, même si tu peux avoir des regrets sur peut-être ta révision qui n'a pas été au top, eh bien, au moins le jour de l'examen, tu auras tout donné. Voilà. Moi, j'y crois. Sugar, tu mets de bonne humeur, Sam, c'est précieux, surtout en ce moment avec le boulot. Sugar, je comprends que taf, c'était pas la fête en ce moment. Je t'envoie de la force. Moi-même qui ai eu beaucoup de chance dans ma vie pro, il y a eu des moments où je me suis pas beaucoup amusé. Voilà. Et dans ces cas-là, je me suis barré. Bon, sauf que il faut trouver le coup d'après. Parfois, le coup d'après, tu mets quelques mois, parfois quelques années à le trouver. Donc, force à tous ceux qui ont pas un plaisir maximum en ce moment dans le boulot. Force à ceux qui cherchent un taf, puisque j'ai vu quelqu'un tout à l'heure aussi. Attends, je recherche ton message pour t'envoyer de la force, qui justement est en recherche d'emploi. Je te retrouve, je t'ai dans la tête. Voilà, douceur tendre. Joli pseudo. Où es-tu? En recherche d'emploi depuis quelques mois, tu es mon rendez-vous du matin. Ah bah ça fait plaisir. Et vive le chômage. Du coup, parce que ça fait un viewer de plus. Attends, c'est quoi déjà? Attends. Rudy, je cherchais la ref. Rudy, imagine demain en Belgique, il n'y a plus de chômeurs. Ton café, Rudy, il ferme. Et pas que ton café, les autres aussi. Bon. C'est un sketch merveilleux qu'on s'est re-regardé il n'y a pas longtemps d'un humoriste belge qui est incroyable. Un sketch sur le chômage en Belgique. Et la chute, c'est... en gros, s'il n'y a plus de chômeurs en Belgique, les cafés ferment. Et si les cafés ferment, hein, l'effet domino, énormément de suppression d'emplois, hein, dans les cafés, chez les brasseurs, chez les comptables des cafés. Et voilà, comme le dit Rudy et El Giganto le rappellent, hein, si demain il n'y a plus de chômeurs, Rudy c'est le patron du café, Rudy, si demain il n'y a plus de chômeurs en Belgique, le taux de chômage explose. Ce sketch est merveilleux. Les livreurs de biens, bien sûr. Il y a un monde où j'aimerais bien consacrer un prochain stream à isoler des petits sons comme ça sur ma table de mixage. Ça fait y a longtemps, au début de ma carrière. Sur stream, j'ai envoyé des petits sons comme ça. Et là, j'ai une petite tablette qui le permet, en fait, une table de mixage qui le permet. Il y a plein de petits sons un peu mythiques comme ça que j'aimerais mettre de côté. Il faudrait que j'y consacre peut-être un après-midi. On pourrait le faire ensemble. Ce serait drôle en vrai. Hein, parce que ça fait un moment que j'y pense. Il faut juste que je retrouve la notice de la Rodecaster Pro 2, mais avec Internet, je pense que c'est pas très compliqué. J'ai pas fini God of War, mais on va reprendre. Alors, excusez-moi, il n'y a pas trop de gaming en ce moment. Parce qu'il y a du taf. Et donc, ça, de la revue de presse, il y en a. Hein. Tous les matins, le samedi, la revue de presse, des bonnes nouvelles. Donc, il n'y a pas eu trop de live gaming. Je crois qu'il y en a... On est mardi. Il n'y en a pas eu lundi. Il n'y en a pas eu mardi. si, il y a du Ark Hero 2 quand je suis aux toilettes. Jeu mobile, jeu tablette, mais ça ne compte pas. Ce soir, il y a un monde où il y a un petit live gaming. Alors, la question, hein. Est-ce que ce sera du Valo? Est-ce que ce sera du God of War? Est-ce que ce sera du Skyrim? Ça, on ne sait pas, hein, c'est au feeling. Orsini, on va en parler, ouais. L'assassinat d'Orsini Anonymous en Corse. Anonymous, d'ailleurs. Niveau combien sur Archero 2? Non, on ne va pas rentrer dans ce débat. D'autant qu'on va commencer la revue de presse sur les chapeaux de roue. parce que j'ai une invitée à 11h. Hop, j'ai son nom ici. D'ailleurs, j'ai pas mis le titre du stream là. Là, voilà. Hop, regardez. Le docteur Valérie Delbos pour parler des gestes barrières contre les virus de l'hiver. Donc on en parlera à 11h. Du coup, j'ai lancé tôt, hein, vous avez vu, à 8h45 ce matin. J'ai lancé tôt ce matin pour en gros avoir au moins 2 heures d'actu, quoi. 9h, 11h, ouais, c'est ça. Voilà. Donc ça veut dire que le sommaire, on va le démarrer là tout de suite. Mais sinon, donc du gaming ce soir. Mercredi, il n'y a pas MVP parce que le MVP, exceptionnellement, il est jeudi à 14h en direct de la maison de la radio. Spécial Média en scène. C'est une réunion annuelle sur une réflexion sur les médias aujourd'hui. Spécial MVP, spécial métier du journalisme, métier des médias. Voilà, MVP, ma vie pro. Voilà. On est en train de travailler sur Festival MVP, je sais pas pourquoi je vous dis ça. Vous voyez Woodstock? Vous voyez Woodstock? Ce sera de la gnognotte. De la gnognotte à côté. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça, je sais même pas si j'ai le droit de vous en parler. Bref, on travaille sur un festival MVP. Genre Woodstock. Mais bon, je sais pas pourquoi je vous parle de ça, je ne suis même pas sûr que j'ai le droit. Bref, MVP 14h jeudi, en direct de la maison de la radio. Ça va être sympa. Il n'y aura pas de revue de presse juste avant, mais il y aura une revue de presse le matin, comme d'habitude. Et puis vendredi, 14h encore, en direct du Grand Palais, cette fois, pour les 200 ans du Figaro, sur l'exposition, sur les 200 ans du Figaro. Super production, 8 invités, une équipe de prod autour de Joe, une dinguerie, des caméras en voiture, voilà quoi. C'est ça, je vous ai montré le lien pour le salon, mais je vous en reparlerai, Sugar. Ouais. Parce que je vais demander une petite correction sur le petit truc là. Voilà. Voilà. Et oui, les gestes barrières, Chris Matt, tu as raison, on en parlera tout à l'heure. Mais notamment sur tous les virus respiratoires, la grippe, Covid, VRS. Et les gestes tout simples et efficaces pour se protéger et participer à protéger les autres. Parce que c'est ça qui est important aussi. Voilà. Donc voilà le petit sommaire vite fait cette semaine. Et je vous propose d'enchaîner tout de suite avec le sommaire de l'actualité, si ça vous va, bande de beaux gosses. Est-ce que vous seriez partant? Est-ce que vous seriez partant pour qu'on démarre là sur les chapeaux de roue après une mini intro de quelques secondes, hein? Ça fait quoi? 11 minutes contre 30 minutes d'habitude. Oui, voilà. Pour qu'on ait un maximum d'infos, quoi. Oui, c'est vrai, un sommaire 11 minutes, oui, Pacoun, je comprends, ça prend un peu à contre-pied. Hein. On est à la limite du claquage de la commu, là. Mais c'est l'intro la plus rapide que j'ai pu voir. Oui, c'est vrai. Mais je me suis dit, vu l'actu, avant que notre invité arrive, je me dis, elle arrive à 11h, le docteur, si on lance maintenant, ça fait 2 heures d'actu, quoi. Comment ça, une quickie? Comment ça, c'est quoi cette intro toute pourrie? Ah ben, les gars! On se rattrapera, comme le dit Camille, on se rattrapera ce soir. Oui, voilà, c'est une revue de presse Fast and Furious. Je salue la question de Occitan, qui n'a rien à voir avec le schmilblick. Est-ce que tu achètes ta viande chez l'artisan boucher? Alors là, alors quel est le rapport avec le potage, avec l'actu, avec l'Iran, avec les idées du RN qui progressent en France? Avec l'assassinat d'Alain Orsoni, avec la question de l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, avec les Golden Globes, avec les gestes barrières. Alors, qu'est-ce que ça vient foutre? Quel est le rapport? On ne sait pas, mais c'est la liberté, c'est formidable. On y va? Est-ce que j'ai votre go pour le sommaire? Bande de beaux gosses. Voilà. Il y en a qui vont arriver, ils vont être en retard. Ils vont dire, ah, je suis en retard. Bah ouais, fallait se lever tôt. Merci Occitan. Tu régales. Il y a Occitan qui dit, ok, je sors. Celui qui a posé la question sur la boucherie. On y va? Merci Isara Kerry. Merci encore Sugar. Merci pour les subs, les soutiens. C'est grâce à vous qu'on est là. Non, c'est pas un gériatre le docteur. Loïc, je te vois. Hein. Je te vois. Hein. Je vois la moquerie là. Tu crois que je te vois pas? Non, c'est une spécialiste de santé publique. Non, c'est pas un proctologue. Arrêtez, en plus, elle est super sympa. C'est une dame, c'est son premier live. Elle est forcément un peu stressée parce qu'elle connaît pas Twitch et tout. Alors, les blagues sur les proctologues, les gériatres, parce que je streamerai un peu âgé là, 11h, là, elle n'est pas prête. Hein. Alors, soyez gentils. Hein. S'il vous plaît, quoi. Moi, je suis habitué, moi. Mais bon, pensez aux autres aussi. Hein. En vrai, elle est super sympa. Puis ça lui tient vraiment à cœur, quoi. Les amis, je vais vous faire un bonjour, vous savez, puisque c'est cette partie de la revue de presse qui part en podcast audio après. Pff, la régalade. Vous êtes des milliards, hein, littéralement, tous les jours à écouter la revue de presse depuis le mois de septembre en podcast audio à partir de 15h, 16h tous les jours. C'est une folie. Donc, je vous fais ça propre. Attention, 3, 4, c'est parti. Bonjour à tous. Bienvenue dans la matinée d'Étienne. On est très heureux de vous retrouver. On est le mardi 13 janvier 2026. C'est tous les matins, hein, c'est bien simple. En direct sur Twitch. Alors, à la louche, hein, 9h midi, 10h, 13h. On a commencé même un petit peu plus tôt ce matin. Et c'est en replay. Alors, sur Twitch, bien sûr. C'est en replay sur YouTube à J+1. C'est en replay en podcast audio sur toutes les plateformes de podcast audio, mesdames et messieurs, depuis la rentrée de septembre. Et je le disais à l'instant, vous êtes des milliards, à écouter tous les jours en podcast audio. Eh ben, ça fait chaud au cœur. Hein. C'est posté par Vincent à partir de 15-16 heures. Alors, on commence par un sommaire, comme d'habitude, pour vous dire l'essentiel de l'actualité. Pour ceux qui n'ont pas 3 heures à me consacrer ce matin. Sachant que la revue de presse, ça va durer 2 heures, puisque... Et en vrai, je pense qu'on peut laisser ça dans le podcast aujourd'hui. Également, on a aussi une invitée à 11h ce matin qui est un médecin, qui est un docteur, le docteur Valérie Delbos, qui tient le titre, il est trop gros ici, je le réduis. Attends, hop là, voilà, qui est le docteur Valérie Delbos, qui est chargée d'expertise. En même temps, je fais la DA de la chaîne, c'est cool. Pour Santé Publique France, qui est une spécialiste de santé publique. On va parler des virus de l'hiver. Des virus de l'hiver, voilà, et de la manière de lutter au mieux contre ces virus, contre leur transmission, se protéger les autres. C'est ce qu'on appelle les gestes barrières. Tout le monde connaît ça, sauf que en fait, on les applique pas forcément comme on devrait. Ça, c'est à partir de 11h. Le sommaire, le voici. On va évidemment revenir sur l'Iran. Hein, je vous en ai beaucoup parlé ces derniers jours, j'en ai longuement parlé hier, notamment de la répression du pouvoir contre les manifestations populaires en Iran, répression dans le sang, comme ce fut déjà dans le cas dans le passé. C'est la une de Libération ce matin. Iran enquête sur un massacre à huis clos, dans un blackout total. La répression du mouvement de contestation contre le régime iranien a déjà tué au moins 600 manifestants. Alors on a beaucoup de bilans qui circulent, on parle de 100 morts, 200 morts, 300 morts, 600 morts, certains disent 2000 morts. Voilà. Le pays est quasi coupé du monde avec un régime qui a tenté de couper Internet sur tout le pays. Hein. On se plongera dans ce dossier de Libération qui est le plus complet ce matin. Mais regardez, je vous ai mis 3 journaux sur le même sujet. Donc on a le dossier de Libé sur la répression, hein, qu'on lira. On a un portrait dans Le Monde du fils de l'ancien Shah. Le Shah d'Iran, hein, la monarchie au pouvoir avant la révolution islamique de 1979. Et ce monsieur, Reza Pahlavi, il se verrait bien calife à la place du calife, en tout cas dans un cadre de transition du pouvoir, dit-il. Voilà. L'homme qui attise la révolte en Iran, titre Le Monde, il multiplie les appels à manifester depuis les États-Unis, il est exilé. Hein. Son nom est scandé dans les cortèges, le fils de l'ancien Shah, renversé par la révolution islamique, s'érige en meneur de la contestation. Alors certains disent, voilà, c'est peut-être l'homme de la situation. Alors ce qui est intéressant, c'est que le Parisien en parle aussi de ce monsieur en disant, c'est intéressant de la part du Parisien, que oui, il parvient à faire émerger son nom, on en parle beaucoup, à la faveur d'une opposition fragmentée, hein, et d'une popularité factice sur les réseaux sociaux. Hein. Que veut dire le Parisien par là? Et puis est-ce que... un représentant de l'ancienne monarchie est la bonne personne pour permettre à l'Iran une transition vers un régime démocratique. C'est une vraie question qu'on posera ce matin. Voilà pour l'Iran, on prendra un petit peu le temps sur ce sujet. La Une du Monde, donc qui tombe au début d'après-midi chaque jour. Hein. Vous savez que Le Monde, c'est anciennement un journal du soir, comme on disait, qui sortait le soir, et puis maintenant qui sort en début d'après-midi. Donc... il est sorti hier après-midi et il est daté de ce jour, mardi 13 janvier, la Une du Monde sur les idées du RN qui s'installent dans l'opinion. Le baromètre annuel d'un cabinet d'études qui s'appelle Verion pour Le Monde, donc c'est un baromètre tous les ans depuis quelques années sur la séduction que les idées portées par ce parti exercent auprès des Français. Donc chaque année, il y a ce baromètre. Et ce baromètre, cette année, il confirme l'enracinement de ces idées. Les chiffres, alors vous les qualifierez comme vous voulez, en tout cas, sont impressionnants. Hein, 42% des sondés. 42% des sondés, c'est un record, se disent en accord avec les idées défendues par le RN. Contre 29% avant l'élection présidentielle de 2022. En 5 ans, on est passé de 22% à 42%. Ah, j'ai vu le chiffre, je me suis dit, tiens, on va lire cet article. Aux yeux des électeurs d'extrême droite, le chef de file du RN, Jordan Bardella, fera un meilleur candidat pour 2027 que Marine Le Pen. Alors, ça ne va pas faire les affaires de Marine Le Pen qui comparaît à partir d'aujourd'hui pour son procès en appel, vous savez, dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Voilà. Donc, on se penchera sur ce dossier. Un sondage, alors c'est qu'une enquête, hein, c'est qu'un sondage, mais qui rentre quand même en résonance avec le résultat des dernières élections, qui rentre en résonance aussi avec ce qu'on peut voir, entendre, lire, subir sur les réseaux sociaux. Voilà. Le RN s'installe dans l'opinion, c'est le titre de Libé. Ça, c'est le dossier du Monde. Il y a un édito aussi dans le Monde, qui est un journal. Qui sur ce sujet s'engage le monde et qui dit ben voilà ce qu'il faudrait faire pour barrer la route au RN, puisque le monde prend parti hein, dans un édito où le journal donne son avis hein, et il appelle à une vraie campagne présidentielle en 2027 pour freiner le RN. Quelqu'un me disait tout à l'heure est-ce qu'on va parler d'Alain Orsoni? Oui, Alain Orsoni, assassiné, abattu en Corse. A priori par une balle d'un sniper dans un cimetière, alors qu'il assistait aux obsèques de sa maman. On n'est pas dans un film, le truc est complètement fou. Mort comme un parrain, titre Le Parisien, leader nationaliste, président de l'AC Ajaccio, football, mais aussi soupçonné d'être un chef de clan lié au grand banditisme. Alain Orsoni a pavé sa vie de larmes et de sang. L'article est à la. Est à l'image de la vie de ce monsieur. T'as l'impression que c'est un roman, t'as l'impression que c'est un film, c'est assez surréaliste. On le lira ensemble. Alors, c'est un sujet qu'on a déjà abordé plusieurs fois ici. La question de l'interdiction ou pas des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Alors, ça a commencé avec une réflexion en France, notamment lancée par le président Macron. Ça fait un moment qu'il dit qu'il faudrait réfléchir à cette interdiction des réseaux sociaux. Qui sont problématiques à certains aspects, par certains aspects, aux plus jeunes, donc aux moins de 15 ans. Un pays qui s'appelle l'Australie a relancé ce débat en le faisant. Hein, l'Australie, il y a quelques semaines, a interdit les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Voilà. Et du coup, c'est la une de la Croix ce matin qui donne la parole aux jeunes. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on va faire sans les réseaux? Face aux risques liés aux réseaux sociaux, les députés envisagent une interdiction pour les moins de 15 ans. Ça peut arriver dans les prochaines semaines. Hein, tandis que les jeunes peinent à imaginer leur déconnexion. Voilà. Après l'Australie qui a interdit l'usage de Snapchat, de TikTok, d'Instagram aux moins de 16 ans en décembre 2025, première mondiale, une proposition de loi suggère d'instaurer cette mesure en France pour les moins de 15 ans. Examiné en commission ce 13 janvier, vous voyez, donc il y a une actualité, hein, le projet suscite le doute chez les jeunes qui plaident pour une utilisation plus encadrée plutôt que pour une interdiction totale. Et on donnera la parole, grâce à La Croix, qui est un excellent journal, à Anne Cordier, qui est une chercheuse, professeure de sciences de l'information et de communication, qui dit qu'il n'y a pas de consensus sur cette question. C'est le cas aussi dans le chat, puisque certains sont pour, certains sont contre. Je crois que j'aurais pas le temps de vous lire ce sujet-là. Je vous le mettrai de côté, celui-ci, puisqu'on a 2 heures ensemble. Les Golden Globes, quelqu'un m'a dit, ah, oh, tu parles pas des Golden Globes. Bah oui, parce que j'attendais l'article à cause du décalage horaire avec les États-Unis, donc je l'ai. Les Golden Globes, on en parle, donc c'est du cinéma, on en parle comme de l'antichambre des Oscars, hein. En général, un film qui est distingué Golden Globes, il peut l'être aussi aux Oscars. Voilà. Et il y a un film assez fou, d'après le trailer que j'ai vu déjà quelques temps, mais on pourra peut-être regarder ce matin à nouveau. C'est une bataille après l'autre et qui se pose en favori dans la course aux Oscars, justement après avoir été distingué au Golden Globe. Ça, c'est dans Le Figaro. Voilà. Et puis, donc, à 11h, je vous le disais, on parlera de gestes barrières contre les virus qualifiés d'hivernaux, mais qui peuvent être là toute l'année, hein, grippe, Covid-19, VRS, tutti quanti, et surtout des gestes barrières, tout simples, pour essayer de s'en protéger, et d'en protéger les autres aussi, on sera avec le docteur Valérie Delbos qui a gentiment nous rejoint à 11h pour en parler. Voilà. Voilà mon sommaire. Vous en pensez quoi? Ça a de la gueule ou ça a pas de la gueule? Enfin, y a du, y a... Je commence vite ce matin parce qu'il y a beaucoup de choses. Marine Swim, la journée commence. Marine, t'as les journées qui commencent durement, hein? Oh non, je viens de me brûler la langue avec mon café, signe d'une journée bien pourrie. Comment lire, Marine? Je t'adore, hein, tu sais. Mais là, on va parler de sujets un peu hardcore, tu vois, notamment de ce que vivent les Iraniens. Franchement, est-ce que se brûler la langue avec avec son café le matin, Marine, hein, tu te brûles. Là, je vais être optimiste. Tu te brûles la langue, ça veut dire que t'es vivante déjà, ça veut dire qu'il y a eu café, ça veut dire que t'es debout, ça veut dire que t'es là face au monde. Hein. Marine qui dit oh, ça fait mal, t'es là, t'es vivante, t'es prêt à défier toutes les aventures, tu vois. C'est ça que je vois, moi. Hein. Pauvre Marine qui n'avait rien demandé. Non, mais je l'adore, Marine. Ah, tu vois, Marine dit oui, je me sens vivante. Voilà, tu vois, je savais. Vous êtes prêts pour la revue de presse, les choupitous là? Merci Charlotte, tu régales. Merci pour ton message. Merci Pistelou. Merci Emiliex, tu vas bien? On y va? Va bien falloir, dit MG. Je vous force pas, hein. Les choupitous que nous sommes sont prêts. Oui, choupitous, oui, j'aime bien ce mot. Allez, on y va, c'est parti. On va parler de l'Iran. Ah, mais j'avais pas déclenché le TC pour le sommaire. Ah. Ok, super. Je n'avais pas déclenché le TC pour le sommaire. Ok. Il faudrait que je dise à Vincent que que j'ai oublié. Ok, on y va sur l'Iran. Les amis, on vient de faire le sommaire. Plus sérieusement, on y va. On va commencer par l'Iran. L'Iran, je vous en parle depuis un moment déjà, hier notamment de la répression du régime contre les manifestants. Hein. Ah, mon épouse m'indique que mon abonnement annuel à la Croix a été facturé sur son compte. Je vais te faire un virement. Je me suis rabonné à la Croix, mais je suis passé par ma tablette, enfin bref. Et je crois que c'est elle qui a payé. Encore la carte bleue de madame. Elle a rien passé, hein, tu vois, je pensais que ça passerait crème. Elle voit tout, hein, incroyable. De bon matin, j'ai fait ça hier ou avant-hier. Voilà, elle m'envoie la capture de l'écran et tout. Hein. Oh là là. Bon, excusez-moi. C'est parti. Donc là, on est avec Libération, on n'est pas avec la Croix. Hier, je vous parlais notamment de la répression hein, du régime sanglante contre les manifestants. C'est la une de Libé, vous le voyez, enquête sur un massacre à huis clos. Dans un blackout total, la répression du mouvement de contestation contre le régime iranien a déjà tué au moins 600 manifestants depuis le 28 décembre. Alors, les sources, c'est très compliqué d'avoir les chiffres exacts. Les sources, est-ce que c'est moins, est-ce que c'est plus? Est-ce que c'est 200, 300, est-ce que c'est 600, est-ce que c'est 2000? Voilà. Donc, on reste prudent, mais en tout cas, il y a beaucoup de témoignages. Attends, les notifs sur la cantine des enfants, là. Il faut que je règle mon iPad, qui sont très inquiétants. L'Iran plongé dans le noir totalitaire. Titre de Libé page 2. Après deux... Oui, puis tu as raison, Chris Matt, c'est déjà trop. Après, un mort, un pays, un régime, quel qu'il soit, qui s'autorise à, pour faire taire une manifestation, réprimer un mouvement de liberté, à tuer un citoyen. Un mort déjà, c'est trop. Tu as raison. Après deux semaines de contestation dans la rue, le blocage d'Internet imposé par le régime d'Ali Khamenei rend quasi impossible tout bilan humain, c'est ce que je vous disais à l'instant. Mais les ONG basées à l'étranger comptent entre 600 et, voilà, et 6000 victimes. 600, 6000. Sur place, morgues et hôpitaux sont débordés. Parce qu'il y a des images quand même qui arrivent à sortir, des témoignages, notamment par... comment s'appelle, vous savez, là. La solution Internet satellite de Musk, là. Certains Iraniens en sont équipés. Starlink, voilà. Notamment par Starlink, même si le régime, du coup, s'est penché sur le sujet et a réussi à brouiller manifestement, il y a une interrogation là-dessus, l'Internet par Starlink. Allez, Donc, lisons l'article. Les responsables du régime iranien ont tenté lundi de reprendre la main. Ils l'ont fait à leur manière, j'ai envie de dire comme à chaque fois, hein, brutale, en invisibilisant toujours plus la répression et en durcissant leur discours. Les protestataires sont des terroristes, a affirmé le président du Parlement. Selon lui, l'Iran mène une guerre sur quatre fronts, économique, psychologique, guerre militaire, États-Unis-Israël, et à présent une guerre contre des terroristes. Un pays qui désigne ses propres citoyens manifestant sur un sujet comme des terroristes, on connaît. Hein. D'ailleurs, récemment, c'est une femme aux États-Unis américaine qui a ainsi été désignée par le pouvoir terroriste après avoir été abattue de sang-froid par la police de l'immigration, l'ICE, aux États-Unis. Continuons. Ces manifestants qui s'expriment. Alors, le Parlement, le président du Parlement, donc c'est sa citation, voilà, rejetant la responsabilité des protestations sur les manipulations étrangères, donc ça c'est un grand classique, alors qu'elles ont été provoquées par une dégradation majeure de l'économie. Les autorités iraniennes ont convoqué les ambassadeurs ou chargés d'affaires de plusieurs pays, la France, l'Allemagne, l'Italie, du Royaume-Uni. Voilà. Elles ont projeté à ses représentants étrangers sur un écran géant des images d'exactions commises selon elles par des manifestants et leur ont demandé de transmettre les vidéos à leur ministère des Affaires étrangères respectifs. C'est un grand classique. Les manifestations de citoyens iraniens pour, alors, contre la vie chère, contre l'inflation et pour un changement de régime, évidemment, c'est la faute de l'étranger. Aussi virulent soit-il, les responsables iraniens ont reconnu lundi qu'un canal de communication restait ouvert entre le ministre des Affaires étrangères et l'émissaire spécial du président des États-Unis, Steve Witkoff. On en parlera, parce qu'il y a des discussions actuellement entre l'Iran et les États-Unis, donc c'est très intéressant. Comparer l'Iran avec les États-Unis ou la France, les gars, je ne compare pas la situation en Iran avec les États-Unis. En revanche, il est factuel de reconnaître que ce sont les mêmes mots utilisés par le pouvoir américain et le pouvoir iranien, les manifestants contre l'ICE, la police anti-immigration aux États-Unis. Ces manifestants sont désignés comme des terroristes par le pouvoir américain, par la Maison-Blanche. Ce n'est pas moi qui l'ai invité. Inventé. Ce sont exactement les mêmes mots. Je n'ai jamais dit que la situation aux États-Unis était la même qu'en Iran. J'ai juste dit, et c'est totalement factuel, et c'est impossible à contredire, que les deux régimes utilisaient les mêmes mots pour désigner les manifestants. Voilà. Et quand on commence à désigner les manifestants opposés au pouvoir comme des terroristes, je suis désolé, ça n'est pas le même problème, mais il y a un problème. Je ne vois pas ce que vous pouvez dire là-dessus. Mais je n'ai jamais comparé les deux pays et les deux régimes. On continue. Concernant le bilan de la répression, le régime n'a fourni aucun chiffre officiel depuis le début du soulèvement. Lundi, une ONG qui s'appelle Iran Human Rights, basée en Norvège, a affirmé qu'au moins 648 personnes avaient été tuées, qualifiant la réponse du pouvoir iranien de massacre, avant d'ajouter que des informations non vérifiées indiquent qu'au moins plusieurs centaines, voire plus de 2000 personnes auraient été tuées, selon d'autres sources. Voilà. Certains parlent d'un bilan de 6000 morts. De son côté, une autre ONG, l'Organisation de défense des droits humains Human Rights Activists New Agency, qui est située aux États-Unis, tente de compiler les noms des manifestants morts à partir de la documentation visuelle et des preuves obtenues auprès des établissements réceptionnant les corps autour de Téhéran. C'est un travail qui est très compliqué. Voilà. Et cette ONG a publié dimanche un bilan s'élevant à 544 morts. Voilà. Après, il y a les chiffres des arrestations aussi. Mais ces chiffres ne constituent qu'une partie du bilan global, d'autant que des manifestations ont été recensées dans très nombreuses villes, très nombreuses provinces en Iran. On parle de 585 manifestants. Manifestation dans 186 villes différentes. Voilà. Et l'ampleur de ces événements a conduit un collectif de spécialistes. On arrive à ce chiffre de 6000 morts. Voilà. L'ampleur de ces événements a conduit un collectif de spécialistes cités de manière anonyme dans le magazine Time à avancer une estimation. Alors que vaut-elle cette estimation? Atteignant les 6000 morts, chiffre qui est une extrapolation depuis un bilan observé dans 6 hôpitaux de Téhéran, ce qui peut provoquer un biais. Voilà. Donc question sur ce bilan de 6000 morts. Mais quelqu'un disait tout à l'heure, à partir d'un mort, déjà, ça ne va pas, quoi. Reste que les hôpitaux sont débordés. Plusieurs témoignages laissent peu de doute sur l'ampleur des conséquences sanglantes de la répression. Des vidéos notamment, ayant circulé ce week-end sur Internet, montrent plusieurs dizaines de corps placés dans des sacs mortuaires noirs entassés à l'intérieur et à l'extérieur d'un entrepôt. Il y a des articles sur l'Iran en ce moment qui expliquent que les endroits où sont entreposés, entassés les morts, hein, dans des sacs en noir, sont totalement ouverts au public, que n'importe qui peut y accéder, et ces médias s'interrogeant, se demandant si ce n'est pas une décision volontaire du pouvoir iranien pour à nouveau faire peur à la population que de laisser accéder ces... c'est pas des chambres mortuaires parce qu'ils sont souvent déposés à même le sol, que de laisser la population... Alors souvent, ce sont des proches, hein, qui cherchent un fils, un père, une sœur, une mère, voilà, mais pour impressionner la population. Alors, difficulté des témoignages, difficulté des bilans, qui s'explique au moins en partie par le blocage quasi total d'Internet par les autorités. Hier, on a lu un article qui nous expliquait que le pouvoir iranien avait construit un système d'accès à Internet dans le pays extrêmement verrouillé, hein, qui ne ressemble pas du tout à celui qu'on peut avoir dans des pays plus libres, où il y avait une illustration qui était donnée par l'article, où le pouvoir est quasiment en capacité de fermer Internet, par exemple, d'un côté d'une rue, et de l'ouvrir de l'autre côté. En laissant, par exemple, le pouvoir ou certaines entreprises liées au pouvoir accéder à Internet, mais en fermant partout ailleurs. Pour tenter de contourner ce verrouillage des communications, de nombreux observateurs et organes de presse ont mis en avant Starlink, voilà, le fournisseur d'accès à Internet par satellite fondé par Elon Musk. Voilà. En théorie, le fait d'accéder directement à Internet via une connexion satellite permet de contourner le blocage des fournisseurs d'accès nationaux qui, vous l'avez compris, sont sous la tutelle du régime. En pratique, c'est beaucoup moins évident. Si l'entreprise américaine déploie progressivement une offre direct to cell, c'est-à-dire avec une connexion directe de smartphone à satellite, il est pour le moment nécessaire d'utiliser les boîtiers Starlink. Or, la possession et l'utilisation de ces boîtiers sont interdits en Iran. Voilà, et font encourir de 6 mois à 2 ans de prison. On estime malgré tout que des dizaines de milliers de boîtiers Starlink ont été activés en Iran. Il y aurait aujourd'hui, selon plusieurs médias iraniens en exil, 40 000 à 50 000 abonnements à Starlink dans le pays, ce qui pourrait représenter 100 000 utilisateurs. Évidemment, c'est 100 000 utilisateurs rapportés aux 90 millions d'habitants du pays. Mais c'est probablement par le biais de ces boîtiers Starlink que le monde a pu découvrir les quelques images de manifestations et témoignages en provenance d'Iran depuis le 8 janvier. Or, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un petit peu de façon un peu brouillonne, il semblerait que le régime ait réussi aussi à brouiller la réception satellitaire de Starlink. Les autorités semblent avoir réussi à bloquer au moins partiellement le service d'Internet satellitaire, ce qui constituerait une première pour Téhéran. Il y a un spécialiste des droits numériques de l'ONG Myon qui s'appelle Amir Rachidi qui explique qu'environ 30% du trafic montant et descendant de Starlink a été perturbé aux premières heures du 8 janvier. Hein, chiffre dépassant les 80% en soirée. Hein, sur Internet, plusieurs internautes qui disent utiliser Starlink depuis l'Iran affirment que leur vitesse de connexion a chuté au point de rendre difficile l'usage du service. Selon ce monsieur, Amir Rachidi, des signaux de brouillage de type militaire ciblant les communications via Starlink ont été détectés dans le pays. Pour le chercheur, le régime est allé au-delà des systèmes de brouillage GPS qu'il utilise depuis des années, peu efficaces contre Starlink, et évoque une hypothèse à vérifier de brouilleurs mobiles comparables à ceux utilisés par la Russie contre l'Ukraine, capables d'agir dans un rayon de 15 à 20 km. Voilà, dossier de Libé sur comment on accède aux informations, comment on arrive à des bilans, et pour l'instant, le flou et l'imprécision autour de ces bilans. Est-ce qu'il y a eu des centaines ou des milliers de morts depuis le début de la répression en Iran? Pour l'instant, c'est le flou, mais en tout cas, cette répression, elle est là. On va parler de Reza Pahlavi, hein, ce représentant de l'ancienne royauté monarchie en Iran, hein, le fils du Shah qui a été renversé en 79. Mais d'abord, je vous lis un petit peu sur la répression. Et bonjour à ceux qui nous rejoignent. Alors, négative, KDA me parle du système Internet en Iran. Cela fait plus de 10 ans que le régime iranien, me dis-tu, façonnait le réseau pour justement pouvoir faire ce genre de coupure. MEG, on peut saluer la bravoure de ceux qui manifestent au risque de se faire arrêter ou tuer dans les rues. En fin de semaine dernière, on lisait des papiers là-dessus. Hein. Avec des chercheurs qui, spécialistes de l'Iran qui disaient que on avait face à face aujourd'hui un régime qui n'avait plus rien à perdre, extrêmement affaibli, et un peuple aussi qui n'avait plus rien à perdre. Voilà. Un peuple à bout de la capacité de vivre normalement dans ce pays, alors, au niveau des libertés, au niveau tout simplement économique aussi, hein, avec une inflation permanente, un pouvoir d'achat extrêmement réduit, et un peuple qui n'en peut plus, à la fois de ce régime et d'une situation quotidienne, économique. Voilà. Et ce qui expliquerait la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Alors, parlons de ce monsieur, avec des avis divergents sur lui. Et là aussi, il faut être très prudent. Reza Pahlavi, qui est-il ? C'est le fils de l'ancien Shah d'Iran, hein, qui était le représentant de la monarchie en Iran, qui a été renversé par la révolution islamique de 1979. Hein, et c'est aujourd'hui, nous dit Le Monde dans ce papier, l'homme qui attise la révolte en Iran. Il multiplie les appels à manifester depuis les États-Unis et son nom est scandé dans les cortèges. Le fils de l'ancien Shah, renversé par la révolution islamique, s'érige en meneur de la contestation. De son exil américain, il regarde la foule des manifestants grossir de jour en jour, plein d'espoir et d'impatience. Reza Pahlavi, 65 ans, fils de l'ancien Shah d'Iran, Mohamed Reza Pahlavi, chassé de son pays par la révolution islamique de 79, croit en son destin. Le mouvement de contestation lui a offert un tremplin inespéré, celui dont le nom est scandé, puisqu'effectivement il y a des témoignages en ce sens, dans les rues de Téhéran, dans les rues de Mashhad, dans les rues de Shiraz, et il se présente comme l'homme providentiel de l'Iran, capable, dit-il, de diriger le pays une fois débarrassé de ses actuels dirigeants, les mollahs iraniens. Alors il s'exprime beaucoup sur Internet. Il est dans quel pays est-il actuellement, me demande le Gecko. Je crois qu'il est aux États-Unis. Alors, il communique beaucoup sur Internet. Grande nation iranienne, le monde entier a les yeux rivés sur vous. Descendez dans la rue, ça a le mérite d'être clair. Et unis, faites entendre vos revendications. Il dit aussi, j'avertis la République islamique, son dirigeant et les gardiens de la révolution. Le président des États-Unis vous surveille de près. La répression du peuple ne restera pas impunie, a poursuivi l'héritier de la dynastie Pahlavi, en référence aux menaces répétées de Donald Trump de frapper durement la République islamique si les protestataires sont réprimés trop brutalement. Donc, Pahlavi espère manifestement une intervention américaine. Dans un article que j'ai lu sur lui, Cet article expliquait que l'un de ses rêves à court terme, c'est d'être reçu par le président Trump, notamment dans sa résidence de Mar-a-Lago, pour être, comment dire, adoubé finalement, comme figure potentielle du futur pouvoir iranien. Mais à ce jour, Trump ne l'a pas reçu. Vendredi et samedi, les foules ont de nouveau répondu présents à ces appels à la mobilisation malgré les tirs à balles réelles des forces de l'ordre. Est-ce l'aube d'une révolution? Ou bien s'agit-il d'une simple révolte qui, comme celle de 2009 déjà, 2019, 2022, sera bientôt matée par le pouvoir? Merci, Quick Quick. Merci, Café au lait. Si l'Occident et nous-mêmes, on est réduit à des conjectures, Reza Pahlavi, lui, semble vouloir saisir sa chance et prendre au nom de sa famille une revanche sur l'histoire. Alors c'est intéressant que quand on lit vite fait l'article du Monde, comme ça, on se dit, il est un peu à l'origine, finalement, du mouvement. Je relis la phrase. Vendredi et samedi, les foules ont de nouveau répondu présents à ces appels à la mobilisation. Donc, est-ce que réellement les manifestants sont dans la rue parce qu'ils ont entendu ces appels à manifester? Est-ce qu'il est à l'origine? Est-ce que c'est un suiveur? Est-ce qu'il ne fait que suivre le mouvement? C'est une vraie question que je me pose. Parlons de sa maman, vous allez comprendre pourquoi. Reza a été élevé pour prendre la suite en tant que prince héritier, affirmait sa mère, Farah Diba, dernière impératrice d'Iran en 2007, rappelant qu'à la naissance de son fils, en 1960, une pluie de roses avait été lâchée sur le pays par avion. Nombre de manifestants aujourd'hui n'ont pas connu la monarchie, ni le règne de Mohammad Reza Pahlavi. Despote impopulaire, rappelle Le Monde. Mais chez les plus anciens, le souvenir de la répression politique en vigueur sous la royauté, parce que ce n'était pas vraiment une démocratie, hein, semble avoir été englouti par les atrocités de la République islamique et les espoirs déçus des derniers candidats réformateurs. Avec l'étouffement du mouvement Femmes, Vie et Liberté en 2022, vous en souvenez sûrement, provoqué par la mort d'une jeune femme, Mahsa Amini, tuée pour ses habits qui n'étaient pas jugés assez islamiques, une forme de nostalgie de l'époque du Shah s'est emparée du pays. Hein, sur des chaînes iraniennes qui émettent de Londres, accessibles en Iran grâce à des paraboles et des logiciels anti-filtrage, les Iraniens ont regardé le cœur serré des images en noir et blanc des Téhéranaises, des habitantes de Téhéran, en mini-jupe dans les années 70. C'est des images qu'on voit pas souvent sur Internet. On dit, ah, l'Iran sous le Shah, et on voit ces images qui renvoient effectivement, en tout cas pour les femmes, à une liberté beaucoup plus grande qu'aujourd'hui. Alors ce qui est intéressant, c'est que Le Monde, très bonne question d'Archange, mais quel est son programme pour l'Iran? On va en parler. Hein? Si c'est pour remplacer une dictature par une autre, ça ne sert pas à grand-chose. Très bonne question, on va essayer d'y répondre. Jusqu'à ces derniers jours, Reza Pahlavi n'était pas perçu par les experts de l'Iran. Est-ce que vous en aviez entendu parler dans la presse, vous, ces derniers temps? Moi non. Comme une figure à même de galvaniser la rue et même de fédérer l'opposition. Ni charismatique ni consensuel, l'homme a ces dernières années montré peu d'inclination, pardon, à former des coalitions avec d'autres forces politiques, autres que monarchiques. Préférant marginaliser tous les acteurs non monarchistes, il a démontré ni la volonté ni la capacité de diriger l'opposition, très diverse à l'intérieur et à l'extérieur de l'Iran, explique un chercheur. En février, Reza Pahlavi s'est affiché à la Conservative Political Action Conference, à la grand-messe conservatrice américaine, en compagnie du gratin de l'extrême droite internationale. Il y avait le président argentin, Javier Milei, il y avait le gourou de l'alt-right américain, Steve Bannon, il y avait le patron de Tesla, Elon Musk, il y avait la présidente du conseil italien, Giorgia Meloni. On est plutôt dans cet univers-là. Il y a aussi ça. Alors, une partie des Iraniens lui reproche par ailleurs sa proximité avec le régime israélien. La proximité assumée du fils du Shah avec Israël, où il a été reçu avec les honneurs par le Premier ministre Netanyahou en avril 2023, heurte une partie des Iraniens. Ses propos lors de l'attaque israélo-américaine de juin 2025, dont on a beaucoup parlé ici, visant les installations nucléaires iraniennes, ont choqué certains Iraniens, puisqu'il avait déclaré que ces bombardements étaient une occasion favorable, passant sous silence la mort dans ces frappes de centaines de civils iraniens. En Iran, où toute opposition structurée est réprimée, hein, lui qui parle de l'étranger, qui est très présent sur les réseaux sociaux, tire pour l'instant avantage de ton statut de seule figure connue capable de mobiliser la population contre le régime. Hein, pour une partie des Iraniens en colère, il apparaît comme un choix par défaut. Hein, le nom de Reza Pahlavi est actuellement crié dans les rues iraniennes car le régime a peur de lui, commente une source diplomatique israélienne. Ces derniers jours, la popularité de Reza Pahlavi a incontestablement augmenté. Un message vidéo qu'il a publié sur son compte Instagram a été visionné 90 millions de fois. Cela ne signifie pas qu'il soit accepté comme une solution à la République islamique, mais il est devenu le principal symbole à travers lequel la contestation publique s'exprime. Voilà. Alors que veut-il ce monsieur? Quel est son programme? Aujourd'hui, Reza Pahlavi le clame haut et fort. Il est prêt à assumer le pouvoir. Dans un document de 200 pages diffusé à ses soutiens en mai 2025, quelqu'un me disait « Mais qu'est-ce qu'il veut faire, lui, pour l'Iran ?» Il détaille son programme de transition en 6 phases, étalées sur 800 jours. Donc, un programme de transition, dit-il. Il propose de diriger le pays pendant cette période de 800 jours. 800 jours, c'est quoi? C'est 2 ans, 2 ans, 2 ans et demi, ça Ouais, c'est, à peine, c'est un peu plus de 2 ans. Non, c'est un tout petit peu plus de 2 ans. Ensuite, l'homme promet de laisser les Iraniens décider de leur avenir. Hein, le fameux « je prends le pouvoir et puis je m'occupe de tout, puis après vous, ça va bien se passer ». Ses partisans jurent qu'il ne veut pas la couronne. Ne voulant qu'accompagner les Iraniens pendant la transition, faut-il les croire? Se demande le monde. Pour donner le coup de grâce au régime actuel en Iran, Reza Pahlavi en appelle à une intervention militaire américaine. Voilà. Sur cette question, Donald Trump laisse planer le doute. Il y a beaucoup d'articles, je ne peux pas tout vous lire ce matin, mais il y a beaucoup d'articles ce matin sur que va faire Trump. Je pense que dans les prochains jours, c'est une question qu'on se reposera. En attendant, ah oui, c'est là que je l'avais lu. Les monarchistes iraniens rongent leurs freins, eux qui voyaient déjà leur champion reçu à Mar-a-Lago, vous savez, la résidence de Trump, en Floride. Mais à ce jour, Trump ne l'a jamais reçu. En implorant ainsi l'aide américaine, Reza Pahlavi trahit l'une de ses faiblesses. Il n'a pas de troupes, ni de relais dans son pays natal, où il n'a pas mis les pieds depuis 18 ans. Il a créé une révolte déjà. Bah, Dadou, 63 miles, moi c'est la question que je me pose. Est-ce que c'est lui qui a créé la révolte? Est-ce que ce sont ses tweets qui... ont conduit les Iraniens à descendre dans la rue, ou il ne fait que suivre le mouvement? En fait, je n'ai pas la réponse à cette question à ce jour, tu vois. Et le Parisien se pose aussi des questions. Là, j'étais avec Le Monde, le Parisien se pose des questions aussi sur cette figure, et écrit le Parisien, sans aucune expérience politique, Reza Pahlavi parvient à faire émerger son nom à la faveur d'une opposition fragmentée et d'une popularité factice, les mots sont extrêmement forts, d'une popularité factice sur les réseaux sociaux. Pourquoi le Parisien dit ça? Je veux directement au passage qui nous intéresse. Le Parisien qui rappelle que le Shah d'Iran, Mohammad Reza Pahlavi, donc le père de ce monsieur, a exercé son pouvoir dans la terreur. Hein, c'était la monarchie au pouvoir avant la révolution islamique de 1979, avec l'aide des États-Unis, du Royaume-Uni. Il a lancé un coup d'État contre Mohammad Mossadegh, qui avait été élu démocratiquement, le nouveau Shah. Alors Shah, ce serait roi en farsi, je ne parle pas farsi, d'Iran. Instaure alors une police politique, la SAVAK, des milliers de personnes sous son régime, opposants, journalistes, étudiants, avaient été torturés, voire exécutés. La jeune génération iranienne n'a pas connu cette dictature-là. Une partie des Iraniens vit dans la nostalgie de cette période aujourd'hui idéalisée. Avant 1979, les femmes portaient des mini-jupes et il était si facile de voyager à l'étranger. Alors, pourquoi le Parisien parle d'une éventuelle popularité factice sur les réseaux de ce monsieur ? Son apparente popularité serait en réalité le résultat d'une manipulation. Selon une enquête du média israélien Haaretz, qui est un journal indépendant israélien de qualité, qui est souvent très critique vis-à-vis d'ailleurs de Netanyahou, l'État hébreu a mené une opération d'influence secrète utilisant de faux comptes et du contenu généré par l'IA en farsi pour promouvoir Reza Pahlavi. De fait, les appels à son retour en Iran proviennent surtout de la chambre d'écho des réseaux sociaux. C'est une marionnette, dit même un chercheur israélien, Dani Citrinovitch, spécialiste de l'Iran, une marionnette d'Israël, dit ce chercheur. Il interagit beaucoup avec Israël, qui essaie de parier sur lui. Il parle de liberté, de démocratie, ça sonne bien. Mais en Iran, personne n'y croit au point de vouloir son retour. Ça n'est pas une alternative crédible. Ouais. Donc voilà, si vous entendez parler de Reza Pahlavi dans les médias, sachez que quelques questions se posent quand même sur lui. Voilà. Voilà pour ces quelques infos. Alors... Je pourrais littéralement consacrer 3 ou 4 heures à l'Iran ce matin, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'articles de qualité qui éclairent cette séquence très complexe qui se déroule actuellement en Iran. Alors je vous ai parcouru 3 journaux, mais je pourrais en parler beaucoup plus et je suis sûr dans les prochains jours, on va continuer à en parler, comme on a beaucoup parlé du Venezuela ces derniers jours, comme on a beaucoup parlé du Groenland, comme on continue à parler de la Palestine, comme on continue à parler de l'Ukraine, parce qu'un conflit ne chasse pas l'autre et une crise ne chasse pas l'autre. Et c'est pas parce que subitement, à la faveur de l'actualité, une actu s'impose à nous, comme ça, en une des journaux, pendant plusieurs jours, qu'on oublie les autres actus. C'est l'intérêt de la presse écrite qui continue de suivre ces sujets. Voilà. Habitué de la revue de presse, vous savez que on parle régulièrement de la Palestine et de l'Ukraine et qu'on n'oublie pas les actus parce qu'une actu subitement fait la une partout. Quoi. Je vous lis un petit peu, puis on enchaîne avec le RN. On a fait, dimanche dernier, on avait fait une spéciale Venezuela un matin. Il n'est pas impossible que je vous repropose une matinée Étienne ou une revue de presse spéciale Iran dans les prochains jours, parce que pour le coup, ce qui se passe là-bas est très important. Quoi. C'est intéressant ce que dit Ocharou dans le chat. Un réalisateur iranien a dit ce matin à la radio que les Iraniens ne se projettent pas encore dans la succession du pouvoir en place. Tout ce qui compte pour eux pour le moment est de faire tomber le régime. Ils verront la suite après, ce sont leurs mots, c'est très intéressant. Merci Frix. Allez, on enchaîne. Je vais mettre... Salut Ragnar, bonne journée. Je mets un coup de chauffage parce que mon invité arrive à 11h et je voudrais pas que le studio soit glacé, bougez pas. Un peu honte, c'est un bordel sans nom ici. Je suis souvent tout seul en studio, donc c'est pas vraiment rangé. Hier, j'ai un peu fait le ménage, j'ai rangé des trucs. Ouais, il faut. Bon, il y a un projet de prendre un local un peu plus grand pour pouvoir recevoir les gens dans de bonnes conditions. Il y a aussi un projet, Samuel Etienne, de faire un peu de ménage ici, de ranger des trucs parce que là ça va un peu à volo. Donc il faudrait que je me penche là-dessus. Bon, on part sur le RN. Oui, c'est l'effet gamer qui s'installe, ouais. Oh, Noctali qui dit je te fais le ménage contre un café, c'est trop mignon, mais jamais, 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 jamais je te laisserai faire le ménage. Non, non, c'est à moi de faire ça, faut que je m'en occupe. Alors ça, c'est un titre qui interpelle. On part sur l'actualité en France. Le titre du Monde, le principal, le premier titre du Monde dans sa dernière édition, c'est les idées du RN s'installent dans l'opinion. Et on a évoqué les chiffres dans le sommaire. Les chiffres sont édifiants. Le baromètre annuel du cabinet d'études Verian pour le Monde sur l'image, c'est une enquête sur l'image du RN dans l'opinion française. Hein, c'est une enquête qui a lieu tous les ans, donc c'est intéressant parce que ça permet de suivre l'évolution. Confirme l'enracinement du parti et de ses idées. 42% des personnes sondées, alors ça n'est qu'un sondage bien sûr, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est la même enquête tous les ans, donc ça permet de voir l'évolution. 42% des sondés, c'est un record, se disent en accord avec les idées défendues par le RN, contre 29% seulement avant la présidentielle de 2022. On est passé de 22 à 42%. Et puis après, il y a un truc sur Bardella aussi qu'on lira. Voilà. Les chiffres, l'enquête, voyons. Donc là, vous avez les courbes, vous avez le détail, ça vous intéresse, c'est la dernière édition du Monde. Le RN s'installe dans l'opinion. Là où c'est intéressant, toi, il y a Original Pimousse qui dit, c'est quoi ce sondage? Écoutez, je suis un journaliste, mais qui est devenu créateur de contenu, donc qui ne cache pas parfois ses valeurs et ses idées. Vous savez que je n'ai pas beaucoup de sympathie pour les dites idées du RN, mais force est de constater, quand tu suis le résultat des élections, élection après élection, année après année, hein, même la teneur du débat public, hein, dans les médias et sur les réseaux sociaux, que ne me dites pas que vous êtes surpris par ces chiffres. Le RN s'installe dans l'opinion. À un moment, il faut peut-être arrêter de se voiler la face, peut-être aussi. Le RN s'installe dans l'opinion. Le baromètre annuel du cabinet d'études et de conseil Verian, ça c'est pour la source, pour le Monde, décide une France coupée en deux parts égales entre les inquiets et les enthousiastes. Les élections législatives anticipées de 2024 avaient semé dans l'opinion un doute quant à la capacité du RN à diriger le pays. Le temps semble l'avoir balayé. Le baromètre annuel du cabinet d'études et de conseil Verian pour le Monde sur l'image du parti d'extrême droite, publié dimanche 11 janvier, montre une nouvelle progression des idées et solutions proposées dans l'opinion. Tout semble glisser sur le RN, notamment les épisodes judiciaires qui ont entaché l'image de Marine Le Pen, mais pas la dynamique du parti, y compris au sein des sympathisants de droite, explique Eddy Vautrin-Dumaine, qui est le directeur d'études de cette enquête. Il y a un équilibre entre la construction et sa crédibilité gouvernementale qui continue de se édifier, et la réassurance sur le fait qu'il puisse incarner une rupture. Ce n'est plus un vote de colère. Hein. Longtemps, on a dit, ah, mais il y a des gens qui disaient, ah oui, mais la montée du vote FN à l'époque. Oui, il ne faut pas trop s'inquiéter parce que ce n'est pas vraiment un vote. Les gens ne veulent pas vraiment qu'ils arrivent au pouvoir. C'est un vote de protestation, c'est un vote de contestation, c'est un vote de colère. Vous avez tous rencontré des électeurs du FN à l'époque qui disaient ça, qui disaient, ah, mais oui, mais moi, je. Tout... Voilà. Bon, aujourd'hui, certains disent, mais c'est plus ça. C'est plus un vote de colère, c'est un vote de solution, c'est un vote pour que ce parti arrive au pouvoir. Cette enquête menée depuis 41 ans par le même cabinet. C'est ça qui est intéressant. Alors oui, c'est une enquête. Oui, ce n'est qu'un sondage avec toutes les limites de cet exercice. Voilà. Mais cette enquête, elle est menée depuis 41 ans par le même cabinet. Voilà. Chaque année, en partenariat avec la revue Hémicycle, permet une vue sur le temps long de l'opinion des Français sur le parti d'extrême droite. Ça, je trouve ça très intéressant. En 2026, elle a été réalisée du 1er au 5 janvier. Hein? L'enquête montre une opinion coupée en deux parts presque égales, avec, dans les sentiments vis-à-vis du RN, avec un rejet toujours aussi fort de la part des sympathisants de gauche et de la majorité présidentielle. Je vais vous lire, hein, parce que je vois plein de messages intéressants. Et une adhésion croissante par ailleurs. Deux blocs qui s'opposent de plus en plus. Reflète cette dualité des sentiments les plus cités. D'ailleurs, ces deux blocs-là, on le sent, on le voit au quotidien, notamment dans l'expression des Français sur les réseaux sociaux. Ah oui, quand vous voyez les prises de position d'Avamind, la créatrice de contenu, la streameuse, sur la question du RN et du racisme en France, quand vous voyez la violence que ça provoque, vous voyez que cette polarisation, c'est pas une vue de l'esprit. Ava qui sera mon invité d'ailleurs dimanche dans Simplay. D'ailleurs. Reflète cette dualité, les sentiments les plus cités pour évoquer le RN sont la peur et l'espoir à égalité. C'est extrêmement révélateur du sentiment que le grand soir peut arriver et d'une autre France qui en prend conscience et au contraire la craint. Commente Eddy Vautrin-Dumaine qui donc dirige cette enquête. Cette opposition se retrouve également donc entre deux blocs, hein, dans les qualificatifs attribués au RN, xénophobe pour 44% des sondés, 40% pensent l'inverse, que le parti n'est pas xénophobe. Hein, d'où les débats sur Les réseaux, quand quelqu'un comme moi, par exemple, dit, bah, désolé, mais pour X raisons que j'essaie d'expliquer, et je ne suis pas le seul, puisque la plupart des journaux que je lis continuent d'utiliser ce qualificatif, le RN, pour X raisons, est un parti d'extrême droite, bah voilà, vous avez la moitié des Français, en gros, 44% qui sont d'accord, c'est un parti xénophobe, et 40% qui pensent l'inverse. Ils sont pas d'accord. Antisémite, 38% disent qu'il l'est, 47% disent qu'il ne l'est pas. Danger pour la démocratie, le RN. Voilà. 41% disent oui, 44% disent non. Quelques 42%, donc aujourd'hui, des Français affirment être en accord avec les idées défendues par le RN, établissant un nouveau record historique. 44% ne sont pas d'accord avec les idées du RN. Voilà. Vous avez deux blocs. Vous avez deux blocs. Il n'était que 29% avant la présidentielle de 2022. De même, l'adhésion aux constats et aux solutions proposées par l'extrême droite a atteint un nouveau record. Sur plusieurs sujets, le RN est crédité d'une capacité à améliorer la situation de la France pour plus de 40% des sondés. Non, Sarah, c'est pas 56% pas d'accord, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'avis. Il faut lire, Sarah, il faut être Sarah. Il y a des gens qui sont pas d'accord, qui n'ont pas d'avis dans les sondages aussi. C'est pas juste que je sais pas faire les additions, quoi. Quand même. Donc, sur plusieurs sujets, le RN est crédité d'une capacité à améliorer la situation de la France pour plus de 40% des sondés, sur la sécurité, sur la réindustrialisation, sur la qualité des services et le pouvoir d'achat. Les Français s'inquiètent davantage, en revanche, pour les conséquences internationales de l'arrivée au pouvoir du RN, place de la France dans le monde, dans l'Union européenne, soutien à l'Ukraine. Aux yeux des Français, selon cette enquête, le premier parti d'opposition en France, c'est le RN. Loin devant LFI, 34% contre 21%. En dépit, d'ailleurs, relève Le Monde, de nombreux votes communs RN-LFI avec la majorité lors de l'examen du budget. Pardon, vote RN-majorité lors de l'examen du budget. Donc parti d'opposition, mais qui parfois vote avec le pouvoir. Le refus de participer aux consultations menées par Sébastien Lecornu sur un pacte de non-censure a imposé un contraste entre le parti à la flamme et les partis de gouvernement, renforçant son aspect anti-système. Un petit tiers des Français estiment que le RN est le seul parti qui peut faire de la politique autrement. Pour 31% des Français interrogés pensent que l'extrême droite peut faire mieux que le gouvernement actuel, contre 23%. Alors, vous l'avez vu, le RN reste perçu comme xénophobe par près de la moitié des personnes interrogées, mais toutes ces propositions hostiles à l'immigration recueillent l'assentiment d'une majorité. C'est le cas par ordre de popularité de la restriction du regroupement familial, de la suppression des allocations familiales pour les étrangers, de la suppression de l'aide médicale d'État, de la préférence nationale en matière d'emploi et de la fin du droit du sol. Ces propositions, dont certaines nécessitent une modification de la Constitution, rencontrent l'assentiment d'une proportion significative des électeurs de gauche, de 25% pour la fin du droit du sol à 40% pour la restriction du regroupement familial. Sur tous ces sujets, l'électorat de la majorité présidentielle se rapproche des positions de la droite, bien qu'il reste ferme par ailleurs dans son rejet global du RN. Là, vous avez le détail, là, je pense. Vous avez quelques détails dans les graphiques sur la gauche. Alors, pour finir, le regard des sympathisants LR et RN sur les dirigeants étrangers, les sympathisants LR et RN, puisqu'en fait il y a de plus en plus de porosité entre les deux camps, explique Le Monde, sont les seuls à avoir un avis positif de la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, et à trouver des qualités à Donald Trump. Seuls les sujets économiques continuent de séparer les deux électorats, LR, droite traditionnelle, et RN, qu'il s'agisse des grandes options du RN comme du sujet spécifique de l'âge de départ à la retraite. Voilà pour les grandes lignes. Je vous lis un petit peu et puis j'enchaîne avec un autre enseignement de cette enquête sur le fait que les électeurs pro-RN préfère Bardella à Marine Le Pen. À l'Aster, pour moi, c'est la faute des partis qui étaient au pouvoir ces dernières années. Ils n'écoutent pas le peuple sur des problèmes récurrents. Résultat, le peuple vote pour des partis extrêmes qui s'accaparent du problème avec des méthodes problématiques que les gens vont probablement regretter. Il suffit de regarder, nous dis-tu, à l'Aster, les États-Unis. Je vous lis. On est en train de lire Le Monde, Ben Alex, et sur les conditions de cette enquête, de ce sondage dont tu parles, tout est précisé dans l'article si ça t'intéresse. Le procès en appel de Marine Le Pen, on en a parlé très longuement, Octave Under, hier. On en reparlera bien sûr, le procès doit durer un mois. Alors, il y a un autre aspect de cette enquête, c'est le fait que les électeurs pro-RN, a priori, préfère Bardella à Marine Le Pen. Alors, ce qui ne fait pas les affaires de Marine Le Pen, d'autant que vous le savez. Donc, aujourd'hui commence le procès en appel dans l'affaire des assistants parlementaires, pour lequel le parti, le FN à l'époque, et plusieurs représentants du parti ont été condamnés. Voilà, elle a été déclarée inéligible. Le procès en appel débute aujourd'hui pour un mois. Est-ce que la justice, cette fois, va lever l'inéligibilité? Voilà. Est-ce qu'elle va prononcer une inéligibilité plus courte qui lui permettrait de se présenter quand même? Voilà. Est-ce qu'elle va confirmer ou aggraver la peine d'inéligibilité? Ça, on le saura à peu près dans un mois. Alors, dans un mois, non, parce que dans un mois, le jugement sera mis en délibéré. Mais le jugement sera rendu suffisamment tôt pour que elle sache si elle peut ou non se présenter à la présidentielle. En attendant, l'autre hypothèse, si Marine Le Pen est toujours inéligible, vous le savez, c'est Bardella. Et c'est là où c'est intéressant. Les électeurs d'extrême droite, quand on leur demande, préfèrent Bardella à Le Pen. Ils semblent avoir adopté le plan B pour 2027. Explique Le Monde. Lisons. À la veille du procès en appel, donc c'était hier, des assistants parlementaires du FN, donc l'ancien RN, qui menace Marine Le Pen d'une inéligibilité qui l'empêcherait de se porter candidate à la 2027, voici un sondage qui devrait nourrir les cauchemars de la patronne de l'extrême droite et de ses proches. Les Français, singulièrement les sympathisants du RN, semblent s'être fait à l'idée que Bardella présenterait de meilleures chances d'être élu. Alors je ne sais pas si c'est juste ou pas ça. Est-ce que Bardella a réellement plus de chances d'être élu que Marine Le Pen? Ça, c'est une vraie question. Pire pour elle, il considère que le trentenaire fera un meilleur chef d'État même que sa mentor, qui est pourtant à la tête de sa famille politique depuis 15 ans. Dans l'enquête, donc c'est toujours la même enquête, hein, annuelle, réalisée par Verian pour Le Monde, l'image de Marine Le Pen apparaît dégradée. Ses traits d'image personnelle, honnête, sympathique et chaleureuse, ne pâtissent pas de sa condamnation en première instance. Mais ses traits politiques sont en franche baisse, après pourtant plusieurs années de progression. Par rapport à l'année passée, une petite majorité de Français la juge capable de prendre les bonnes décisions, 55%, elle perd 12 points. De comprendre les problèmes quotidiens des Français, 50%, elle perd 6 points. Sa capacité à rassembler au-delà de son camp, baisse de 11 points, elle n'est plus qu'à 39%. L'actuel président du RN, Bardella, qui a été mis là par Marine Le Pen, hein, subit également un léger tassement de son image, mais dans des proportions moindres. On a le sentiment que Marine Le Pen fait office de paratonnerre pour Bardella et qu'elle seule finalement subit l'incapacité à arriver au pouvoir et les épisodes judiciaires qui frappent le parti. Une personne interrogée sur deux considère que Bardella. Donc là, ce n'est pas les sympathisants du RN, hein, c'est les Français d'une manière générale. Une personne interrogée sur deux considère que Bardella a plus de chances de remporter l'élection présidentielle. Ils ne sont que 18% à le penser pour Marine Le Pen, hein, quand on les compare entre les deux. Une sur trois ne se prononce pas, n'a pas d'avis. Cette conviction est encore plus ancrée chez les sympathisants du RN, c'est ça qui nous intéresse. 70% des sympathisants du RN pensent que Bardella ferait un meilleur candidat contre 20% pour Marine Le Pen. Évidemment, c'est lié à la situation judiciaire de Marine Le Pen, puisque les sympathisants du RN, ils savent que Marine Le Pen, aujourd'hui, est inéligible. Donc, peut-être, on fait pas le match avant le match, mais si dans X semaines, la Cour d'appel dit que Marine Le Pen n'est plus inéligible, peut-être que ces chiffres vont changer. Mais ça témoigne quand même de la rapidité avec laquelle les espoirs se sont reportés, les espoirs du camp RN, hein, sur le plan B, devenu un plan A dans la tête des électeurs frontistes. Il y a des articles ce matin sur Marine Le Pen qui disent que Marine Le Pen, elle est lâchée par le RN, lâchée par ses électeurs. Ça me semble un petit peu excessif. Je pense que ça peut beaucoup changer en fonction de la décision de justice. Mais ce que dit Le Monde, c'est quand même le basculement s'est fait très rapidement et très facilement. Au point que ces derniers, donc les sympathisants du RN, apparaissent convaincus que Bardella, malgré son inexpérience politique, il a pas eu de poste de responsabilité, il n'a pas été ministre et pour cause. Hein. Il est député européen, mais ses opposants disent qu'il ne travaille pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'amendements ou de propositions d'ordre législatif qui issues de sa force de travail. Voilà. Et malgré son inexpérience politique, eh bien... Alors, attendez, le chiffre vient des sympathisants ou des Français ? Ah oui, c'est les sympathisants. Eh bien, 56% des sympathisants RN pensent qu'il fera un meilleur président de la République contre 29% pour Marine Le Pen. Cruel pour Marine Le Pen, puisque cela renvoie au procès en incompétence qui l'a accompagné durant une bonne partie de sa carrière politique. Quand on demande aux Français, ils sont plus partagés, l'écart n'est que de 8 points au bénéfice de ce dernier. En matière de potentiel électoral, hein, la différence n'est pas très nette entre les deux prétendants, avec 3 points d'écart seulement au bénéfice de Bardella, 42% contre 39% potentiel électoral. Le score est quoi qu'il en soit très élevé pour les deux. Ce matin, il y a un édito que je ne vous ai pas mis de côté qui dit que l'un des enseignements des sondages actuellement, c'est que, et c'est quasiment une première dans l'histoire moderne politique de notre pays, c'est la première fois que dans le même parti... Vous avez deux candidats hein, qui, en fait, sont très hauts dans les sondages. En général, il y en a un qui se détache. Et donné potentiellement gagnant. C'est rarissime, cette situation. Interchangeable, presque. Voilà. Par pragmatisme ou par réalisme, les sympathisants RN sont en train de passer à autre chose. L'avenir électoral semble porté par Jean-Noël Bardella, Marine Le Pen incarnant davantage l'histoire du parti. Allez, je vous lis. Non, il y a un édito aussi, là. Non, peut-être vous lire l'édito, peut-être. Je vous lis l'édito du Monde. Alors, l'édito, c'est quoi ? C'est un article un peu particulier, vous savez, parce que c'est un article où, clairement, le journaliste ou le journal bah, donne son avis et s'engage. Bon, Le Monde, c'est un journal qui ne veut pas voir arriver l'extrême droite au pouvoir. C'est pas une info, c'est pas une surprise, ça a toujours été le cas. Un média, il peut avoir des engagements, un journal, il peut avoir des engagements, j'ai des valeurs, j'ai des opinions, je les exprime parfois. Le Monde en a aussi, et Le Monde ne veut pas voir... ne souhaite pas voir le RN arriver au pouvoir. Que dit Le Monde dans son édito ? L'outil est aussi éclairant que préoccupant. Depuis 1984, Le Monde publie donc ce baromètre, le baromètre du FN, devenu entre-temps RN. En lissant les chaos de l'actu, ce travail de très long terme, hein, sur, je sais pas, 51 ans, je crois, c'est ça ? Permet de mesurer avec finesse la progression de l'extrême droite dans la vie politique et la société française. La dernière édition dresse un constat implacable, jamais, 41 ans, ça fait ? 84 ? Ouais, 41 ans. Merci, Clama. Jamais le RN n'a été aussi puissant. À force de provocation puis de banalisation, à grand renfort de propositions stigmatisantes puis de dédiabolisation, on voit accélérer de normalisation grâce à des victoires électorales et à des relais médiatiques organisés. Je lis un peu vite parce qu'en fait, mais pourtant chaque mot est important, donc je vais ralentir un peu. À force de provocation puis de banalisation, à grand renfort de propositions stigmatisantes puis de dédiabolisation, en voie accélérée de normalisation grâce à des victoires électorales et à des relais médiatiques organisés. Vous savez qu'aujourd'hui, ça c'est une nouveauté depuis quelques années, grâce aux médias dont le groupe Bolloré a pris le contrôle, vous avez des médias qui portent désormais ces idées, ça n'était pas le cas avant, des médias forts, puissants. Le parti fondé par Jean-Marie Le Pen est donc passé des marges à un rôle de plus en plus central. Plus de deux tiers des sondés considèrent qu'il a la capacité d'accéder au pouvoir et une part de plus en plus importante ne s'inquiète même plus de cette éventualité. Il ne représente plus un danger que pour 41% des personnes interrogées. Selon cette enquête, il n'y a que 41% des Français qui voient l'arrivée du RN au pouvoir comme un danger. Et prospérant sur l'échec des autres, le RN est même vu par une majorité comme une alternative qui aurait des effets positifs sur la réindustrialisation de la France, sur les services publics, sur le pouvoir d'achat. Dans un contexte de fragmentation du paysage politique, cette dynamique n'a fait que se renforcer ces dernières années. Depuis 2018, la part des sondés en désaccord avec les idées du RN est passée de 70 à 44%. Et ces fausses solutions pénètrent la société française en profondeur. Depuis 2020 et la crise due au Covid-19, l'opinion s'est radicalisée puisque 80% des sondés réclament une justice plus sévère et des propositions classiques du RN, même les plus contraires à la Constitution, sont largement majoritaires, notamment l'interdiction du voile islamique dans l'espace public ou la préférence nationale en matière d'allocation familiale ou d'embauche. Une diffusion d'idées qui touche certaines parties de la gauche désormais et conquiert des pans entiers de l'électorat des retraités, deux piliers de moins en moins solides du barrage républicain. À l'orée d'échéances électorales importantes en France, et alors que de nombreuses démocraties ont déjà basculé, États-Unis, Hongrie, Italie, pour ne parler que de celle-ci, jamais l'extrême droite française n'a semblé aussi bien placée pour conquérir le pouvoir. Cela ne veut pas dire que le scrutin présidentiel de 2027 est joué d'avance. Les législatives 2024 ont montré une volonté de résistance dans une grande partie de la population, avec une hausse de la participation très nette et la constitution d'un front républicain dans de très nombreuses circonscriptions. Et dans un monde soumis à des chocs politiques, géopolitiques majeurs, les liens idéologiques de Marine Le Pen et Jordan Bardella avec Donald Trump et leur proximité passée avec Poutine pourraient être de vrais repoussoirs. Alors, sous la plume de Vanilla Kush qui anime le chat depuis tout à l'heure, il y a le fameux parallèle. Ah oui, vous évoquez les liens du FN avec les anciens nazis et SS, mais vous oubliez les liens entre le parti. Tu écris PCR. Donc, alors PCR, c'est un test pour le Covid, je crois. Tu veux dire PCF, je pense, Parti communiste français. Et Staline. Bon, c'est un classique, ça. Hein. Ça s'appelle détourner l'attention. En disant « Ah oui, vous soulignez que dans les fondateurs du FN, il y avait des nazis et des SS, mais vous oubliez de dire que Staline était un communiste et que dans le Parti communiste français, donc c'est pas PCR, hein, y a communiste aussi !» Puis, je suis surpris que vous ne parliez pas de Mao, d'ailleurs. De la révolution culturelle chinoise, d'ailleurs. Pourquoi vous oubliez toujours Mao, d'ailleurs? Pourquoi ça parle que de Staline? C'est marrant. L'histoire, c'est beaucoup plus que ça. Et donc, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, la question n'est pas forcément la plus pertinente. D'autant qu'aujourd'hui, si on devait répondre à ce fameux argument, qui est un des arguments principaux d'ailleurs, qu'on voit sur répondre à la question de savoir qui a créé le FN, on pourrait répondre que, bah, a priori, le PCF, et non pas le PCR, n'est pas, lui, sur le point d'arriver au pouvoir en France. Voilà, par ailleurs, on pourrait commencer par ça. Mais bon, si ça vous intéresse de répondre toujours les mêmes arguments claqués au sol sur le sujet, bon. Je continue l'édito du Monde. Donc, cela ne veut pas dire que le scrutin de 2027 est joué d'avance, écrit Le Monde. Voilà. Contrairement à 2022, où la campagne électorale avait été escamotée par le début de la guerre en Ukraine et l'entrée en lice tardive du président sortant, président Macron, les électeurs français méritent de se décider après avoir vécu une confrontation d'idées exemplaires. Un débat politique qui n'omettrait aucune thématique, puisque le RN se nourrit de toutes les colères. Un débat où les candidats chercheraient à convaincre plutôt qu'à rejeter. Un débat qui permettrait de déconstruire les promesses illusoires de l'extrême droite, mais aussi de proposer des solutions. Un débat préservé des polémiques instrumentalisées et des ingérences étrangères. Il reste 15 mois au personnel politique pour se montrer à la hauteur Alors ça, c'est marrant parce que ça se présente comme une phrase d'espoir dans la bouche du monde. Bon, moi, je trouve qu'elle sonne comme quelque chose d'extrêmement inquiétant parce que quand je lis cette phrase, l'issue de la présidentielle de 2027 dépend de la capacité de l'actuel personnel politique de se montrer à la hauteur, hein, d'un débat politique de qualité et des attentes des Français, vous me permettrez d'être extrêmement pessimiste sur ça au vu de ce qui se passe depuis quelques années dans notre pays. Ah oui, comme le dit Chiboucle, j'en ai marre de voter contre, j'aimerais bien voter pour quelque chose, je suis bien d'accord avec toi. Magic Box, c'est la deuxième fois que tu poses cette question, je vais y répondre. Pas d'auteur pour cet édito signifie qu'il est soutenu par toute l'équipe, c'est une très bonne question. L'édito du Monde n'est jamais signé. Jamais. En fait, c'est une des particularités d'une curiosité du Monde. L'édito qui est toujours en général signé par un journaliste dans les autres journaux, il n'est jamais signé dans le Monde, c'est l'édito de la rédaction. C'est très particulier ça, mais c'est une vraie bonne question. Alors. Alors tu demandes, mais est-ce que ça veut dire qu'il est validé par toute la rédaction? Bah, je dirais que non. Il est impossible que tous les journalistes du monde dans leur diversité se retrouvent forcément dans cette analyse. Donc, mais c'est une particularité du monde, ça. C'est très intéressant. Un jour, si j'échange avec la direction du journal, c'est une question que je leur poserai. Je leur dirai, mais comment ça fonctionne l'édito en fait? Qui l'écrit? Pourquoi vous ne le signez pas? C'est une vraie bonne question. Mais ça a toujours été comme ça. Alors, par exemple, je lis un édito dans le Figaro, par exemple, signé, toujours. Et je sais que. Je sais pertinemment que tout le monde au Figaro, parce que c'est une rédaction qui est plus diverse qu'on ne croit, valide pas forcément l'édito. Et d'ailleurs, parfois, dans le journal, quelques pages plus loin, on trouve un article qui dit littéralement l'inverse. Donc, c'est vrai que c'est une vraie question. C'est une très bonne question. J'ai pas la réponse à cette question, par contre. Je regarde l'heure parce que dans une demi-heure, mon invité va sonner et après je vais l'installer. On commencera avec elle à échanger à 11h sur les gestes barrières, mais je voudrais quand même passer en revue l'actualité un maximum, quoi. Bon, les amis, je propose de passer à la mort, enfin, l'assassinat de Monsieur Orsoni, Alain Orsoni en Corse. Voilà. L'histoire, elle est folle, on dira un roman, on dira un film, sauf que ce n'en est pas un. Voilà. C'est qui? Ben, je vais te raconter son histoire. Voilà. C'est deux pages dans le Parisien qui se lisent comme un roman, sauf que ce n'est pas un roman. Mort comme un parrain, écrit le Parisien, leader nationaliste, président de l'AC Ajaccio. Mais aussi soupçonné d'être un chef de clan lié au grand banditisme, Alain Orsoni a pavé sa vie de larmes et de sang. En Corse, bon, le début de l'article est un peu bizarre, une blagounette. En Corse, il n'y a guère que la plante qui est immortelle. Je crois qu'il y a une plante en Corse qui s'appelle l'immortelle. Pas les hommes. Alain Orsoni, 71 ans, le savait. L'ancien président de l'AC Ajaccio a été abattu lundi après-midi dans le cimetière de Véro, où il assistait aux obsèques de sa mère. Le gars a pris une balle, a priori d'un sniper, alors qu'il assistait aux obsèques de sa mère dans un cimetière. Assassiné dans son fief de la vallée de la Gravonna par un tireur embusqué qui n'a pressé la détente qu'une seule fois et à plusieurs centaines de mètres de distance avant de disparaître, le bel Alain, comme il était surnommé avec ses faux airs d'Yves Montand, se défendait d'être un chef de clan. Il est décédé comme un parrain. Sa vie et sa mort sont une légende comme seule la Corse est capable d'en façonner. Une histoire de larmes et de sang, c'est relativement. L'article, je trouve, est assez bien écrit. Depuis quelques années, il connaissait plus de gens dans les cimetières qu'en dehors, souffle un proche. Les balles qui avaient fauché ses proches semblaient l'épargner, au prix d'un énième exil au Nicaragua et de très rares retours sur l'île de Beauté. Dans son chalet de Véro, qu'il s'était fait construire au fond du jardin de la maison de ses parents, ou derrière les vitres blindées de son Audi, Alain Orsoni ne laissait presque rien imaginer à ses ennemis. Ils ont attendu patiemment l'occasion, les obsèques de sa mère. Une faille dans l'armure, quelques minutes à découvert, un poste de tir sans doute repéré à l'avance. En Corse, l'imagination meurtrière est comme la haine qui la nourrit, sans limite. Or, Sony le savait mieux que personne. En 2010, son ami et complice de toujours, Antoine Nivagioni, avait été abattu par des tueurs dont l'un s'était caché dans le coffre de toit d'une voiture garée devant chez sa maîtresse. Alors, qui est-il? Quelqu'un me demande, mais qui est Alain Orsoni? Jeune, Orsoni avait épousé la cause nationaliste corse, dont les idées et les armes à la main. Après un premier passage par la case prison, en 83, son frère Guy est enlevé. On ne retrouvera jamais le corps de son frère, mais les assassins seront punis par la justice des hommes, guillemets. Un commando du FLNC s'introduit à l'aube dans la prison d'Ajaccio pour abattre les deux suspects du meurtre de son frère. Alain n'est pas de cette expédition. Voilà, à la dernière heure, il est à la maternité où son fils vient de... À la même heure, il est à la maternité où son fils vient de naître, auquel il a donné le prénom de Guy, d'ailleurs, comme son frère défunt. Des années plus tard, dans ses mémoires, il avouera regretter de ne pas avoir fait partie du commando. Ces vendettas sans fin vont imprimer la biographie d'Alain Orsoni. Il fonde le mouvement pour l'autodétermination, le MPA, quitte donc le FLNC. Le mouvement corse pour l'autodétermination est vite rebaptisé le mouvement pour les affaires et se voit taxé d'être moins concerné par l'idéologie nationaliste que par les bénéfices financiers à en tirer. Une guerre interne éclate, sanglante. Orsoni doit choisir. C'est la version corse de la valse ou le cercueil. Oh, pardon, excusez-moi, la valise ou le cercueil. À la fin des années 90, il part pour l'Amérique centrale, Guatemala, Nicaragua. Il tient également une pizzeria à Miami. Il renforce l'adage qui veut que derrière chaque jeton de casino se cache un corse. Au Nicaragua, il développe des salles de jeu, des restaurants, des casinos. Les affaires tournent, même si Orsoni est un temps persona non grata sur place. Il doit partir à Barcelone, où se trouve la société de placement de machines à sous. En 2008, il revient sur l'île. Officiellement, il s'agit pour lui de succéder au président de l'AC Ajaccio, donc on parle de football. Mais dès son retour, les balles sifflent. Pour les policiers, il ne fait guère de doute que la guerre qui fait rage entre le clan Orsoni et la bande du Petit Bar, célèbre, n'a pas grand-chose à voir avec le foot. Le contrôle de la chambre de commerce et d'industrie de la Corse du Sud, ces juteux marchés semblent au cœur des rancœurs. Et dans ce monde, les calibres ont plus le poids que les négociations. Les trahisons se succèdent, les cadavres s'entassent dans les rues d'Ajaccio. Alain Orsoni échappe à un guet-apens à la sortie du stade en 2008. Ses proches sont abattus. La violence n'est pas un chromosome corse, disait-il. Mais comme parfois, on n'est pas obligé de le croire, lui qui, depuis des années, avait de nouveau choisi l'exil au Nicaragua. Les mauvaises langues disent qu'il y comptait ses millions. Il avait abandonné la présidence de l'AC Ajaccio, laissant avec l'ancienne équipe une ardoise qui intéressait la PJ. Il se savait en danger sur l'île. On peut même dire qu'il se savait condamné à mort, dit un proche. Un autre rappelle un proverbe corse qui dit « Par une culpa ou une casca l'arbouri, un coup ne suffit pas à faire tomber un arbre. L'arbre est pourtant tombé hier à Véro. » Tu lis l'article. Tu te dis c'est un film. Tu te dis c'est inventé. Ben non, c'est la vie d'un gars, quoi. Voilà. Donc, tout le monde ne connaissait pas Orsoni. Je me suis dit que cette histoire, j'allais vous la raconter, quoi. Et l'article est plutôt bien écrit, hein. C'est signé Damien Delceni, Jean-Michel Descugy et Vincent Gautrono. Il y a Poum qui écrit, je suis désolé pour lui, mais c'est un règlement de compte entre mafia. Ce mec faisait partie du problème. Mais comment ça, Sniper, c'est une folie? Alors l'article dit que c'est très rare en fait. En général, les règlements de compte en Corse, c'est à bout portant, quoi. Mais là, effectivement, c'est un peu intriguant, cette balle de sniper. Hein, chez nous en Corse, dit Natachias, le deuil et le cimetière, c'est sacré. Nous avons tous été choqués de cet acte qui ne respecte pas l'une de nos plus grandes valeurs, le respect du deuil et des morts. Le récit est hallucinant, quoi. Voilà. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, l'article est dans Le Parisien. Il me reste un petit peu de temps encore. Hein, à 11h, on reçoit notre invité pour parler des gestes barrières. Et on va parler des réseaux sociaux. Alors, c'est pas la première fois qu'on parle de ce sujet sur cette chaîne. Alors, le débat sur l'éventuelle interdiction dans un pays comme la France des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, il est lancé par, par plusieurs actualités. Le fait que ça fait quelques années que le président Macron en parle, voilà, que là, il y a des textes de loi, propositions de loi ou projets de loi qui arrivent en ce sens, et que en Australie, ils l'ont fait il y a quelques semaines. Donc, on en a parlé plusieurs fois. Et la Croix donne la parole aux jeunes ce matin, aux jeunes Français, qui disent notamment « Mais on va faire quoi, nous, sans les réseaux ?» Face aux risques liés aux réseaux sociaux, les députés envisagent une interdiction pour les moins de 15 ans, tandis que les jeunes peinent à imaginer leur déconnexion. Éloge de l'ennui. Il y a un édito dans La Croix à ce sujet, qui est signé Paul de Coustin. Les réseaux sociaux occupent une place prépondérante dans la vie des ados français. Bon, dans la vie des Français tout court, hein. Plus de 4 jeunes sur 5 âgés de 11 à 17 ans utilisent chaque jour au moins une grande plateforme en ligne, selon l'ARCOM. Une fois connectés, ils y restent souvent des heures, enfermés dans des boucles algorithmiques prédatrices de leur temps d'attention. Bon, c'est vrai aussi pour les adultes. Comme dans d'autres pays, comme en Australie récemment, le gouvernement français veut donc limiter cette passion dévorante et va présenter prochainement un projet de loi pour interdire leur accès aux mineurs de moins de 15 ans. Mais que vont-ils bien pouvoir faire une fois privés de leurs écrans, ces jeunes ? Regardez le plafond, s'interroge une adolescente dans nos colonnes. La perspective n'est pas certes des plus excitantes, pourtant elle pourrait être un effet désirable d'une interdiction effective. Réapprendre aux enfants à s'ennuyer. L'ennui, c'est la meilleure école d'apprentissage de soi, écrit l'artiste Gaël Faye. Il mène à la contemplation. Il développe l'imagination et nourrit les rêves, contrairement au contenu éphémère des plateformes, aussi vite vu qu'oublié. Il encourage le passage à l'action, au jeu, quand les écrans poussent à la sédentarité. Bien sûr, les plateformes en ligne permettent aussi des découvertes, des rencontres stimulantes, et rendent aujourd'hui de nombreux services dont on ne peut rester privé indéfiniment. C'est pourquoi il semble primordial d'accompagner la limite d'âge d'une politique d'éducation aux réseaux sociaux et aux dangers qu'ils comportent. Mais pas mal, c'est dit en vrai. Pour que passé 15 ans, les jeunes puissent aller y tromper l'ennui, mais de manière avisée. Merci Gogo, merci BBFox, merci Frix, merci Quick. Je n'ai remercié aucun sub. Alors, les jeunes, qu'en pensent-ils ? Hein ? Après l'Australie qui a interdit l'usage de plusieurs plateformes, TikTok, Instagram, au moins de 16 ans, mais je crois que Twitch et YouTube sont concernés aussi, hein, si je ne dis pas une bêtise. C'est une première mondiale d'ailleurs, l'Australie. Une proposition de loi, donc proposition de loi qui vient des parlementaires, hein, contrairement au projet de loi qui vient du gouvernement, suggère d'instaurer cette mesure en France pour les moins de 15 ans. Mais il y a plusieurs textes qui arrivent là, en fait. Il y a de fortes chances que ça puisse arriver à un vote, quoi. Examiné en commission ce 13 janvier, donc c'est aujourd'hui, le projet suscite le doute chez les jeunes qui plaident pour une utilisation plus encadrée plutôt que pour une interdiction totale. Et c'est vrai que MMG a raison, il y a aussi une réflexion au niveau européen là-dessus. Alors, les jeunes. Naïla, voilà, elle a pris dans les médias la décision prise par l'Australie. Elle ne cache pas son incompréhension lorsqu'on lui dit que la réflexion est en cours en France. Mais on va faire quoi si on n'a plus les réseaux ? Est-ce qu'on va regarder le plafond ? Prévenons du choc que cela produira chez les jeunes inscrits comme elle sur ces plateformes depuis parfois l'école primaire. Merci Matt pour ton prime. Elle assure que Snapchat et TikTok, qui est conçu d'environ 2 heures par jour, lui apportent confiance et joie, même s'il a effectivement entendu parler de cas de harcèlement. Interrogées sur l'usage qu'elles ont d'Instagram, de TikTok, de Snapchat, Elia et Leïla répondent à l'unisson, discuter, s'envoyer des vidéos apparaissant sur le fil d'actu. À 12 ans, Leïla confie avoir déjà posté une vidéo dans laquelle elle exposait ses envies de se tuer. Depuis, sa maman lui a interdit de se filmer et de publier des vidéos, mais elle lui a pas interdit l'accès aux plateformes. On ne poste plus de vidéos, disent aussi les filles, parce que sinon les garçons capturent un passage et font des stickers avec nos têtes. Voilà. Comprendre le fait de détourer le visage et de l'application à des situations des actions peu avantageuses, voire obscènes, vous connaissez. Ouais. Sa mère, à elle, lui a récemment interdit d'être suivie sur les réseaux par les garçons. Conscient des dérives que peuvent représenter les réseaux sociaux pour les plus jeunes, Nour, 14 ans, plaide pour un encadrement, elle, plus strict. On voit de plus en plus d'élèves en primaire. Non mais à quel moment? En primaire? Qui postent des vidéos? On pense qu'ils ont 16 ans alors qu'ils viennent à peine d'en avoir 12. Ils veulent copier les plus âgés en suivant les trends. Selon la CNIL, un enfant possède un smartphone en France en moyenne à l'âge de 11 ans. Quand sa première inscription se fait dès l'âge de 8 ans et demi. Quoi? Ouais, mais là, je pense que ça compte les YouTube Kids, tout ça, là. Je pense aussi. Je pense qu'ils intègrent tout ça. Enfin, 8 ans et demi. Inscrite pour sa part depuis le CM1 sur Snapchat et TikTok. Attends, mon aîné, il est en quoi, là? 9 ans, il est en C... Je sais jamais. CM1? Oui, CM1, il est pas en CM2 encore. Il est en CM1. Mais dans aucun monde, il s'inscrit sur Snapchat et TikTok, quoi. Là, il y a un souci, quand même. Hein. Et donc... Nour se souvient justement d'avoir reçu plusieurs fois des caractères, alors qu'elle était très jeune comme ça, des photos à caractère pornographique. Interrogé par La Croix à Marseille, Nolan, Ali et Tonio admettent effectivement avoir les yeux rivés sur leur téléphone portable entre 3, 6, voire 8 heures par jour. Bon, la parole aux jeunes qui nous disent « on veut pas », ouais d'accord, mais enfin, quand tu vois les témoignages et les chiffres, ça donne envie de le faire. Dont une majeure partie sur les réseaux. Les trois jeunes hommes plébiscitent Snapchat, où ils échangent avec leurs amis, TikTok, où ils suivent les trends, les vidéos humoristiques, mais aussi les actualités via le créateur de contenu Hugo Décrypte, ou le quotidien local La Provence. Ça, c'est OK. Le problème, évidemment, c'est pas l'outil, c'est le contenu auquel ils ont accès, quoi. Pour autant, ils sont conscients des risques entraînés par les plateformes numériques, les réseaux sociaux. C'est dangereux, ça devrait être interdit aux moins de 13 ans, dit Tonio. Selon une étude menée par Odoxa, 67% des jeunes de 11-17 ans sont favorables en France à une interdiction pour les moins de 15 ans. C'est intéressant. Hein, voilà, Azerdval me dit, la fille de ma voisine a 9 ans, elle est sur TikTok et Insta. Ben, c'est pas normal. Je suis désolé, je suis un vieux con, mais c'est pas normal. Il faut protéger les petits de ces contenus-là. Vous savez très bien ce qu'on trouve sur ces réseaux quand on scrolle. Hein. Moi, je suis désolé, mais les parents qui laissent des enfants de 9 ans accéder à ces contenus, pardon, mais vous n'avez pas compris ce qu'on... C'est pas possible. Donc 67% des jeunes de 11-17 ans en France sont favorables à une interdiction des moins de 15 ans. Nisrine, collégienne parisienne de 13 ans, soutient cette mesure, mais souligne néanmoins l'efficacité du contrôle parental auquel elle est soumise, qui pourrait selon elle stopper les choses malsaines et dangereuses, sans compromettre les échanges avec ses amis. Bien sûr. Tout le monde est responsable. La société est responsable. Peut-être qu'effectivement, il y a un texte de loi à faire passer pour envoyer un signal à la société aussi, d'ailleurs. Les parents sont responsables. À l'école aussi, il faut sensibiliser les enfants là-dessus. Hein. Il faut que tout le monde s'y mette, en fait. Pour Samuel, 14 ans, les goats, Samuel, les réseaux sociaux offrent un champ d'exploration infini. Pratiquant l'escalade depuis quelques mois, ce jeune homme de 3e regarde de multiples contenus relatifs à sa pratique sportive. Tout est dans le dosage, dit Samuel. Voilà, quelqu'un de bien. En même temps, c'est normal, vu le prénom. Qu'est-ce que me dit Xartaf, c'est intéressant. Je suis chirurgien dentiste, je vois de plus en plus régulièrement des enfants sortir leur téléphone pour regarder un snap pendant que je suis littéralement en train d'effectuer un soin. Je suis peut-être également un vieux con, mais je ne voyais pas ce genre de comportement il y a 8 ans. Je pense qu'on est beaucoup de vieux cons quand même. Hein. Donc Samuel, 14 ans, dit « c'est une question de dosage. Je m'oblige à ne pas y passer plus d'une heure par jour », dit-il. Et je répète à mon petit frère qu'il faut vivre de vraies expériences au dehors avant de regarder sur son portable. Voilà. Son petit frère de 11 ans donne son avis. 13 ans serait de bonne limite d'âge. 15 ans, c'est trop tard, dit-il. Chargé de l'antenne francilienne, c'est région parisienne, de l'association Lève les yeux, qui mène depuis 2018 des actions de prévention auprès des jeunes dans les collèges, bah bravo la sauce, les lycées, mais aussi en maternelle depuis peu, Floriane Didier souligne l'importance de l'effet de groupe dans l'usage des réseaux sociaux. Le problème principal est la peur de l'exclusion. Souvent, les jeunes sont conscients de l'usage problématique des réseaux, mais restent inscrits par peur de ne pas être à la page. Hein? À la question « Quitterais-tu les réseaux sociaux si tes amis le faisaient ?» posée par Lacroix aux jeunes mentionnés dans cet article, tous ont hoché de la tête sans hésiter. Qui est aussi parce que les autres y sont, quoi. Voilà. Et on a une interview intéressante d'une chercheuse, d'une professeure qui s'appelle Anne Cordier, qui est professeure de sciences de l'information et de communication à l'Université de Lorraine, qui dit qu'il n'y a pas de consensus. Alors peut-être qu'elle parle d'un consensus scientifique sur cette question. J'ai envie de lire cet article avec vous. Voilà. Lacroix dit à cette chercheuse, vous avez participé à l'étude de l'ANSES sur les effets des réseaux sociaux sur la santé des ados, okay, publié mardi. Mardi, c'est aujourd'hui. Quels en sont les principaux enseignements? Et elle dit, j'en retiens la difficulté d'isoler l'usage des réseaux sociaux comme facteur déterminant dans la détérioration de la santé d'un ado. Sauf sur les questions liées au sommeil et à la sédentarité, là, c'est incontestablement un facteur aggravant. Alors, donc elle dit, c'est compliqué aujourd'hui de dire que les réseaux, c'est un facteur déterminant dans la détérioration de la santé. Sur le sommeil, sur la sédentarité, il n'y a pas de doute, mais là, la question n'est pas tranchée. Cette étude confirme par ailleurs que les usages problématiques des réseaux sont liés à des vulnérabilités sociales et psychologiques. Autrement dit, si un ado a déjà des difficultés d'intégration sociale ou un rapport au corps compliqué, les réseaux peuvent accentuer, pardon, ces difficultés. Mais elles peuvent aussi constituer un soutien pour d'autres jeunes qui se sentent isolés. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde, adulte compris, est exposé à un risque. Face à cela, on peut soit accentuer la prévention pour tout le monde, soit interdire. Alors, Lacroix dit, interdire les réseaux aux moins de 15 ans, est-ce que c'est la solution? Et elle répond, cette universitaire, il n'y a pas de consensus sur cette question, ni politique, ni scientifique. Les deux rapporteurs de la commission d'enquête parlementaire sur TikTok n'étaient pas d'accord entre eux sur ce point. Pour ma part, j'y vois un renoncement, un aveu d'impuissance face aux GAFAM, comme on n'arrive pas à les faire plier pour qu'ils sécurisent enfin leur plateforme. Hein, il suffit de voir l'enfer sur Terre qui est devenu X aujourd'hui, l'ancien Twitter. Hein, on préfère priver une partie de la population de l'accès à leurs services. Hein, comme on n'arrive pas à réguler, à encadrer correctement et à imposer des modérations minimales sur certains de ces réseaux et de ces plateformes, eh ben, on se dit, bon, bah, du coup, comme on n'arrive pas à protéger, enfin, à protéger les plus jeunes de ce contenu par la régulation du contenu, bah, on va interdire les outils. À mon sens, mieux vaudrait tenir le bras de fer en faisant front autour de l'arsenal législatif existant, et il se compose de règlements européens ambitieux, DSA et DMA, hein, des règlements européens qui provoquent d'ailleurs la colère de Donald Trump, vous le savez, qu'on a le plus grand mal à faire appliquer, notamment en raison d'imbrications géopolitiques. Et voilà. Dans ce contexte, ne vaut-il pas interdire, faute de mieux? Ce qui m'effraie, c'est que je ne vois pas cette mesure s'accompagner d'un... Merci, me braconnier. Ce qui m'effraie, c'est que je ne vois pas cette mesure s'accompagner d'un renforcement de prévention et de l'éducation au numérique. Donc elle dit, pourquoi pas interdire, mais il faut surtout, et il faudrait qu'il y ait un volet, faire de la prévention. Or, quand l'ado aura 15 ans et un jour, que va-t-il se passer, dit cette dame. Hein? Imaginez que vous n'ayez jamais fait sortir votre enfant et à 15 ans, vous lui demandez de traverser la rue tout seul. Paf, l'enfant! Voilà, pareil. En matière de numérique, les médiations parentales les plus efficaces ne sont pas celles qui reposent sur un interdit catégorique, mais sur une contractualisation des règles. Cela ne veut pas dire valider chaque exigence de l'ado, mais établir des règles ensemble, apprendre à avoir discuté, quitte à accepter la part de conflit de ces négociations. Bah, l'éducation, quoi. Et une fois que les règles ont été fixées, s'y tenir. C'est intéressant ce que tu dis, Madame Gesmer. À trop caricaturer les ados comme des êtres soumis à leurs hormones et captifs des algorithmes, on en oublie qu'ils sont doués de raison, de compréhension, d'empathie. Un parent peut tout à fait partager avec son enfant ses inquiétudes concernant les réseaux sans pour autant lui faire peur ni dénigrer sa pratique. C'est très intéressant ce que dit cette chercheuse. Merci, le fifou. Est-ce que les parents s'intéressent suffisamment à ce que font leurs enfants en ligne? Pour moi, c'est un vrai problème, dit-elle. Ils considèrent trop souvent, pardon, excusez-moi, j'ai mon téléphone, tout va bien. Les réseaux sociaux comme le refuge des ados, un lieu qu'ils ne comprennent pas. Pourquoi ne pas en faire une activité partagée? Oui, tiens, c'est une bonne idée, on va scroller les réseaux ensemble. Oh, une femme toute nue. Oh, un gars qui demande à Grock de retirer les habits d'une dame qui a rien demandé. Ouais, ça va être des bons moments en famille, ça. De même que quand son enfant revient du foot et qu'on lui demande comment il l'a vécu, on peut tout à fait s'intéresser à tel influenceur qu'il apprécie, regarder une vidéo avec lui, en discuter. Là, je suis d'accord. Dis donc, fiston, et si on regardait Samuel Etienne sa revue de presse, là? C'est intéressant, ça. Ah oh non, pas l'autre, là. Le vieux, là, qui joue aux jeux vidéo? Ah non, mais il est nul. Ah non, il est tellement gênant. Ah bon, d'accord, ok. Ouais. Les goûts, les couleurs. Ce qui accentue aussi cette tendance à l'écran refuge, c'est la réduction des espaces de sociabilité pour la jeunesse. L'espace public présenté comme un espace de risque a progressivement été verrouillé. Résultat, les ados manquent de lieux en dehors de l'école ou chez eux pour discuter avec d'autres. Il me paraît simpliste de croire que s'ils passent tant de temps sur ces plateformes, c'est uniquement parce que les algorithmes les ont enfermés. Merci madame, qui ne nie pas le danger des réseaux sociaux et de leur contenu pour les jeunes, mais qui dit, il n'y a pas que ça. Mouf me dit, ma fille de 2 mois grandit en écoutant ta voix tous les matins. Oui, Mouf, mais quand elle va grandir, tu vas voir, elle va dire, ah ouais, j'en peux plus du vieux là. Le vrai problème, c'est comment on va vérifier l'âge. Takayov, très bonne question. Voilà, évidemment qu'il y aura de. Si les réseaux sociaux sont, par voie législative, interdits aux moins de 15 ans en France, bien sûr qu'il y aura du contournement, bien sûr qu'il y aura du VPN, bien sûr que les logiciels de vérification. Qui utiliseront l'IA notamment pour vérifier l'âge, par exemple par le visage, bien sûr qu'ils se tromperont. Mais moi, la position que j'avais là-dessus, même si je pense qu'effectivement il n'y a pas assez de prévention et que je suis d'accord avec cette chercheuse, le problème c'est pas tant le réseau, c'est pas tellement l'outil, c'est ce qu'il y a dessus et le fait qu'il n'y a pas de contrôle du contenu et que les GAFAM sont tout puissants, ils font ce qu'ils veulent et que c'est très compliqué, même si l'Europe essaie de modérer ça avec les directives qu'on a citées tout à l'heure. Et qu'il y a un vrai souci par rapport à ça. Mais si on doit interdire, si cette loi passe, eh bien sûr qu'elle sera contournée. Mais elle envoie le message à la société qu'il y a un sujet, il y a un souci. Que laisser un enfant, c'est un message qu'est envoyé aux parents et aux enfants, que laisser un enfant, un jeune, à moins de 15 ans, seul, avec un téléphone, une tablette, un ordinateur, accéder à ce qu'il veut, évidemment, nous, là, ce matin, ça nous semble indécent, enfin, pas indécent, mais. Comment dire, ça n'a pas de sens quoi. Vraisemblable, insensé, merci Sofioche. Voilà. Insensé, mais pourtant c'est la réalité, ça existe. Ben, peut-être que pour les parents qui ne l'auraient pas compris, les jeunes qui ne l'auraient pas compris, ben, de voter une telle loi, on va en parler, les médias aussi, tu envoies le message à la société que voilà, il y a un sujet. La loi ne résout pas tout, mais c'est un message aussi, une loi. Hein, même si elle est, si elle ne s'applique pas. Parfaitement, ou voire s'appliquer très mal. Mais il y a un message. On va en parler et ça va peut-être y réfléchir certains parents, parce que manifestement, au vu des comportements relatés par l'article ou même relatés dans le chat, de familles où l'enfant a accès très très tôt à des contenus problématiques, manifestement, il y a des parents qui n'assument pas leurs responsabilités par rapport à ce sujet. Je vous lis. Dans 4 minutes, mon invité va sonner, mais on finira un petit peu. On ira voir les Golden Globes quand même. On ira voir quelques bonnes annonces quand même. On est sur un bon timing. Je vous lis. Je suis certain qu'une très grande partie des parents qui laissent leurs enfants aller sur les réseaux sociaux très tôt s'en foutront totalement qu'une loi l'interdise, l'ignore mieux. Ouais, c'est mon côté optimiste. Mais effectivement, on a une responsabilité, alors encore une fois sociétale. Hein. Les parents, les proches, la famille élargie, les copains, l'école. On peut tous aussi sensibiliser les plus jeunes à ce discours. Hein, plus on sera nombreux à porter ce discours, et plus il touchera les principaux intéressés. Ah, comme, voilà, c'est ce que alors, Angelaine le dit mieux que moi. Une règle imposée par une autorité extérieure à la famille aide aussi à appuyer une décision parentale. Voilà, tiramisu, j'aurais aimé que mes parents aient été plus regardants sur ce que je regardais plus jeune. Hein? Dad Colossus, oui, l'État a quand même un rôle. On le voit sur la cigarette et l'alcool. Il y a toujours des jeunes qui passent au travers de l'interdiction au moins de 18 ans, hein, le tabac et l'alcool. Mais imagine s'il n'y avait pas la loi. Ce serait n'importe quoi, aucune limite. Donc oui, les parents ont un rôle crucial, mais la loi est un appui aussi qui peut les aider. C'est aussi mon avis. C'est pour ça que je trouve ce débat intéressant. Mais à condition, et cette chercheuse le dit très bien, qu'il y ait un volet prévention aussi, qui est insuffisant aujourd'hui. Néo, 27 ans, sans enfant, quand je dis à mes frères et sœurs qui manifestement ont des enfants, les écrans c'est dangereux, même laisser la petite 30 minutes le temps de se préparer le matin, c'est pas bien, on me prend juste pour un relou qui ne sait pas la charge que c'est d'avoir un enfant. Alors ça dépend ce qu'il y a sur la tablette. Tu vois? Tu vois, on n'est pas parfait non plus, tu vois. Les écrans, ils sont là. Il ne s'agit pas de les supprimer totalement. Mais. Ah, c'est mon invité. Bougez pas. Je vous laisse un petit peu. J'accueille mon invité, je lui fais un café, et puis et je vous rejoins, ok? Bougez pas, hein? C'est moi. Mais pas une musique d'attente, pas une musique d'attente, hein. Pas une petite publicité, rien. C'est-à-dire que vraiment, c'est l'abandon, quoi. Voilà. Alors, En fait, l'abandon que je viens votre abandon à l'instant est inversement proportionnel à l'accueil très chaleureux que j'ai fait à mon invité, quoi. Voilà. Je m'excuse auprès de ceux qui nous écoutent en podcast audio là, qui ont eu le droit à quoi, 2 bonnes minutes de pause, je pense. Hein. Je m'en ai... Il y a Oshao qui dit ça va être sympa en podcast. Bon, ils sont habitués. Hein. Donc, dans un instant, je vais accueillir notre invité, mais on va lire un article sur les Golden Globes juste avant. Je vous dis juste qui elle est pour ceux qui n'étaient pas au début de ce stream. Voilà. C'est un médecin, c'est le docteur Valérie Odelbos, qui est chargée d'expertise scientifique pour Santé publique France. C'est une spécialiste de santé publique, mais on la fera préciser un petit peu sa spécialité et ses fonctions. Et on va parler d'un truc tout simple, c'est les gestes barrières, voilà, contre les virus qu'on appelle improprement les virus hivernaux, parce qu'ils peuvent nous toucher aussi à d'autres moments de l'année, grippe, Covid, VRS et autres. Et c'est les gestes barrières, et c'est la maman de Lucas aussi, Madame Kesmer, tout à fait, quelle mémoire. Et ces gestes barrières qui nous permettent de nous protéger, hein, et de protéger aussi les autres, ça me semblait intéressant d'en parler. Voilà, ça c'est dans un instant, mais d'abord j'ai un autre article à vous partager sur les Golden Globes, pour finir sur un truc un petit peu léger. Et oui, on a Lucas, qui est le fils de notre invité, qui est passé dans le chat il y a un jour ou deux. C'était trop mignon. En tout cas, on aura de nouveau cet échange sur ce sujet de l'interdiction ou pas des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. D'ailleurs, quand on dit réseaux sociaux, on dit lesquels ? Parce que, sauf erreur de ma part, les articles qui parlaient de l'Australie parlaient des plateformes également, des YouTube, des Kick et des Twitch. Donc, ce sujet, on l'aura de nouveau, notamment si, merci Lady Anne Bird, si le texte arrive au vote et si cette loi est votée, il s'agit de savoir quels sont les réseaux sociaux interdits, quelles plateformes, à partir de quel âge, et est-ce qu'il y a un accompagnement, est-ce qu'il y a aussi de la prévention, quoi. Est-ce qu'on peut comparer Twitch à X, par exemple, YouTube à TikTok, vous voyez. Donc ça, c'est une vraie question. En tout cas, ce qu'on a souligné, que c'était à l'instant, et je pense que c'est intéressant, que c'est une responsabilité globale, sociale, commune, hein, des parents, de l'école, mais aussi de toute la société. Et on aura l'occasion d'en reparler. Là, on en parle parce qu'il se dit qu'une loi arrive en France sur le sujet. Et on verra si c'est le cas ou pas. Voilà. On finit de façon un peu plus légère, puisque quelqu'un hier m'a interpellé et était bien sur l'actu sur les Golden Globes. Voilà. Alors, avec le décalage horaire, je n'avais pas encore d'article sur les Golden Globes, qui sont donc des récompenses pour le cinéma aux États-Unis, dont on dit que c'est l'antichambre des Oscars, qu'un film distingué aux Golden Globes, parfois il récolte aussi des Oscars. Voilà. Et du coup, avec le décalage horaire avec les États-Unis, j'ai trouvé un article dans le Figaro sur les Golden Globes avec un film qui s'est distingué, qui s'appelle Une bataille après l'autre. Je crois qu'on avait déjà vu la bande-annonce, le trailer. Le film a l'air un peu fou, un peu déjanté. On a bien aimé. Je pense qu'on va re-regarder cette bande-annonce. Lisons l'article, vite fait. Un vent de résistance a soufflé sur le palmarès des 83e Golden Globes, qui a célébré plusieurs films appelant à la lutte pour les valeurs démocratiques. La satire politique Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson a survolé la cérémonie pour laquelle vote 400 critiques internationaux et qui est considéré comme un tremplin vers les Oscars le 16 mars prochain. Oui, je crois qu'il y a DiCaprio dedans. Mais pas seulement. La distribution est assez intéressante. En tête des nominations avec 9 citations, ce récit, donc le film dont on parle, qui s'appelle donc Une bataille après l'autre, des fractures contemporaines américaines qui mettent en scène un ex-militant à l'esprit embrumé par la fumette, DiCaprio, forcé de se ressaisir pour secourir sa fille métisse des griffes d'un suprémaciste blanc, Sean Penn, a conforté son statut de rouleau compresseur de la saison des prix. Une bataille après l'autre a remporté dimanche à Los Angeles le tiercé prestigieux du Golden Globe du meilleur film. Alors on me dit, c'est chelou, le film est space, superbe film. Je vois que certains l'ont vu manifestement. Hein. Le film est incroyable, me dit Mister Mesca. Donc, meilleur film, meilleure réalisation, meilleur scénario. À ce butin s'ajoute la statuette du meilleur second rôle pour Teyana Taylor, militante de la lutte armée dans le film qui abandonne les siens au nom de la cause. Paul Thomas Anderson, a rendu un hommage appuyé au patron de la Warner Bros, Mike De Luca, et à son soutien de l'exploitation en salle, alors que le studio historique est en passe d'être cédé à la plateforme de streaming Netflix, ce dont on a déjà parlé ici. Les acteurs sont top, Benicio Del Toro est incroyable dedans. Mais attends, le film, il est sorti? Le film est super, me dit Patate Chaude. Je l'ai vu au ciné? Ah bon? Il est déjà sorti alors. Le film est très bien dans le top 3 de 2025, le film est incroyable, c'est juste qu'on est plus habitué à voir à autre chose que les films mainstream aujourd'hui. Giga gênant ce film, estime Draculos, plein de moments dérangeants, perso assez caricaturaux. Il est sorti il y a 3 mois. D'accord. Bon, vous êtes quand même très nombreux à l'avoir apprécié. Ok. On regarde le trailer ou pas? Alors, MMG me précise que tous les films nommés aux Golden Globes, normalement, sont déjà sortis. Ok. Cannes, c'est pas le cas, par exemple, hein, je crois, si. Alors, comment s'appelle le film? Trailer. Une bataille après l'autre. On va mettre VOST, hein. Alors, je crois avoir déjà vu ce trailer. Et effectivement, je m'étais dit, je crois qu'on s'était dit, un peu what the fuck, quoi. Hop, la voici. Amis en podcast, vous n'avez pas l'image, en podcast audio, bien sûr. Désolé déjà pour la petite pause de 2 minutes tout à l'heure quand j'ai accueilli mon invité. Et là, vous vous tapez une bande-annonce. Bon, vous avez quand même le son. On y va. Les yeux sur la bande-annonce, le trailer, les yeux sur le chat. Certains ont apprécié le film, je vois, hein. J'ai eu une explication intéressante sur les Golden Globes parce que moi j'avais pas la ref, mais merci à toi, je vais la lire tout de suite. C'est Bayriek dont je me disais, mais alors à Cannes souvent les films sont pas sortis, là les films sont sortis, Golden Globes, et Bayriek m'explique, les Golden Globes sont une remise de prix, donc tous les films doivent être sortis pour pouvoir donner les prix, alors que Cannes c'est un festival qui a pour but justement de faire découvrir des films. Souvent les films vont sortir dans l'année et feront leur première pendant le festival. Merci à toi pour l'explication. Ah. Je lis quelques messages. Le film est trop bien, mélange d'humour, d'une critique de la politique américaine de Trump et des élites américaines, me dit le dauphin. La distribution est assez incroyable. Vous avez vu Benicio Del Toro à l'instant dans le trailer. Très chouette comme film, me dit Julien. Vu, aimé. Allez le voir, ça en jette vraiment, me dit Maître Panda. Ok. En vrai, ouais. En moi, c'est tentant, ouais. En vrai, il y avait surtout des scènes X un peu dérangeantes. Quoi, tu parles du réseau social Trump, c'est ça? Sean Penn, dans l'un de ses plus grands rôles, me dit Lucien Ducasse. Bon, vous êtes peut-être fan comme moi de Sean Penn, mais... Ok. Intéressant. À voir en VO. Oui, alors là-dessus, moi, je ne prononce pas. Moi, je suis assez VO, mais... Là-dessus, moi, j'ai pas de... Je pense qu'il faut pas être... Faut pas imposer sa sensibilité là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Sur la question de la VO. Hein, ou de la VF. Il y a très bon doubleur en France, bien sûr, vous le savez, d'une part. Orthodoxe, exactement, Clama Coquine. Mais moi, j'aime bien regarder les films en VO. Hein, notamment pour les films étrangers, quoi, pour avoir un peu la voix des acteurs. Mais franchement... On a d'excellents comédiens de doublage en France, donc d'excellentes VF en général. Et puis il y a des gens qui aiment pas les VOST. Voilà. Moi j'ai des amis qui, par exemple, qui ont des soucis de lecture, qui sont 10, voilà, et qui arrivent pas à lire très très vite, et pour qui tout simplement l'accès aux sous-titres est très compliqué. Et ça gâche le plaisir. Voilà. Bah, regarde, c'est ce que dit Pierre Gloom. Certains dyslexiques notamment ne peuvent lire et comprendre les sous-titres en regardant un film. Moi je connais le sujet. Voilà. Donc moi, ça m'arrive de regarder des films avec des gens dans cette situation. Et évidemment, dans ce cas-là, on passe en VF, quoi. Il y a zéro débat. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut, pour le coup. Donc, parfois, on a des débats un petit peu animés sur le sujet. Franchement, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Les amis, un grand merci pour cette revue de presse. Ça n'est pas terminé. Attendez, je garde la tablette. Voilà. Cyril, ça n'est pas terminé. Puisque, hop, on passe à la dernière partie de cette revue de presse pour parler de santé. Voilà. Voilà. Et je vais aller chercher mon invité, je vais en profiter pour faire un petit café. Quelqu'un veut un petit café? Vous voulez que je vous ramène quelque chose ou pas? Voilà. Et on va parler de gestes barrières pour la dernière partie de cette revue de presse. Alors, timing incroyable, dit Clama Coquine. Effectivement, j'avais parlé de 11h. J'avais parlé de 11h et il est 10h59, c'est plutôt pas mal. Donc, je vous laisse les micros ouverts, je vais installer mon invité, je vais amener une chaise, on va faire un café. Qu'est-ce que, la commande, c'est quoi? Ouais, un café au lait, ok, un macchiato, un cappuccino, un petit thé, ok. Ok, bah, je vous amène tout ça. Alors normalement, vous devriez tout recevoir chez vous dans un instant. Ok? Bougez pas. Avec un glaçon dedans? Incroyable. À tout de suite. Je le fais au plus vite. Amis en podcast audio, ne m'en voulez pas, on fait la mise en place et on y va. Installez-vous. Voilà, je vais essayer de vous faire une petite place. Voilà. Je me pousse. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Je vais vous donner un casque. Alors attendez, celui-là, on n'en a pas besoin. Bougez pas, les amis. Hein. Oh, regardez comme ils sont sympas. Bonjour, bonjour, docteur. Ils sont incroyables. Celui-là, on va le pousser. Et on va prendre le même micro tous les deux. Voilà. Et ici, voilà. Et là, vous pouvez vous entendre ou pas? Vous entendez un petit peu? Est-ce que vous entendez vous-même?
Là, il faudrait que Oui, ça y est,
Un
je
petit peu.
m'entends bien.
Et ça, vous pouvez le régler si vous voulez plus ou moins vous entendre.
Ok.
Si vous entendez trop fort ou vous voulez que je vous baisse un petit peu ou ça va comme ça?
On peut baisser un
On peut baisser un petit peu? Voilà. Est-ce que c'est mieux comme ça?
peu. Impeccable.
C'est bien? Voilà. Regardez comme ils sont sympas. Bonjour docteur. Quoi de neuf docteur? Je pense qu'on ne l'a jamais fait. J'aurais besoin d'un renouvellement, c'est possible? Non,
Ah
non,
non.
non. Non, non. Alors attendez. Bon, alors, les amis, attendez, je mets toutes les choses bien. L'intitulé, voilà. Le titre du stream, on le remplace par le nom de notre invité. Voilà, donc je vous présente ici. Donc là, le micro, il est bien. Normalement, vous devriez bien entendre notre invité parce qu'on a le même casque qui est réglé exactement de la même façon. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça n'est pas le cas, parce que le son est important. Docteur, est-ce que je peux avoir un arrêt maladie de 6 mois? Non, Corinne Guy, ce n'est pas le lieu. Dit-on, il y a plein de questions, mais est-ce que le son, c'est bon pour vous? Dites-moi déjà. Donc, mon invité, je vous l'ai écrit en bas ici. Si certains arrivent en cours de stream, n'hésitez pas à leur répondre. Le docteur Valérie Delbos. Alors, moi, j'ai mis un titre, mais je peux le corriger parce que parfois on n'a pas les bonnes infos. J'ai mis chargé d'expertise scientifique pour Santé publique France.
À Santé publique France.
À Santé publique France. Voilà. Est-ce que moi je me suis laissé dire que vous étiez une spécialiste de santé publique.
Oui,
C'est le cas?
j'ai une formation un peu mixte en fait, à la fois en santé publique et en maladies infectieuses.
Infectiologue également. Donc mes infos sont bonnes. OK. Oui. Nuno, sponsor, je te le mets tout de suite. Attends, je te fais tout ça. Voilà. Et aussi ici, bougez pas. Voilà. Voilà. Le son un peu faible? Ok, je te le monte. Attends, attends, parce qu'il faut que je. Ok. J'ai donné le meilleur des deux casques à mon invité. Je monte un petit peu son son. Vous me direz. Parce qu'ils sont très participatifs.
Je vois, je
C'est-à-dire
vois,
que
je
même sur la qualité. Hein,
vois.
l'image et son. Donc là, ami, j'ai boosté le son de notre invité. Et si ça n'est pas
Qu'est-ce
suffisant, vous me dites. Le micro est juste. Je pense que c'est bien là. C'est mieux, chef. Voilà. Voilà. Donc, alors, sur le titre, déjà, on est pas mauvais. Donc, docteur Valérie Delbos, chargée d'expertise scientifique à Santé publique France, mais également infectiologue. Voilà. Qu'est-ce qui nous réunit aujourd'hui? On va parler des gestes barrières. Voilà. C'est une prise de parole pour nous sensibiliser aux gestes barrières contre les virus de l'hiver. Alors, attention, improprement appelés les virus de l'hiver, parce que l'hiver n'est pas la seule saison concernée. Et que les gestes barrières, les gestes de protection de soi et des autres, et ça, je pense qu'on va en parler parce que c'est très important, parce qu'on ne protège pas que soi. Et parfois, en se faisant avec ces gestes barrières, on protège d'autres et parfois plus fragiles que nous. Ces gestes, ils sont recommandés tout au long de l'année, pas forcément seulement l'hiver. Donc, cette prise de parole que je vous présente en cette fin de revue de presse aujourd'hui, c'est à l'initiative de Santé publique France. Alors, Santé publique France, certains le savent, c'est un établissement public dont l'une des missions est une mission de veille sanitaire pour identifier les risques sanitaires qui pèsent à un instant T sur une population.
Mm-hmm. Hein, je pense qu'on surveille peut l'état de santé de la population et on essaye d'anticiper les risques et d'agir pour la prévention.
Exactement.
Parce que, effectivement, je travaille dans l'unité prévention du risque infectieux.
Voilà.
Donc, je suis ciblée dans cette unité-là.
Et alors, on a été ravis, alors, parce que certains de nos viewers sont là tous les jours, et il y a, je crois, 2 jours, votre fils est passé dans le chat. Est-ce que c'est Antoine? Non.
Non, c'est Lucas.
C'est Lucas. Lucas est passé dans le chat. Et alors, c'était drôle, parce que Lucas est passé, je crois, lundi ou dimanche. Je crois que c'était lundi.
C'était le week-end.
C'était le week-end. C'était samedi soir, me dit Lucas. Oui, quand je ne sais pas quelque chose, même sur mon propre travail, je demande à la communauté. C'était samedi soir. Et Lucas nous dit, me dit Samuel, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans la revue de presse mardi? Moi je dis ben non, évidemment je n'ai pas mon agenda sous les yeux et je n'ai aucune mémoire. Et je dis je ne crois pas. De quoi veux-tu parler? Et puis je crois qu'il y va un peu, enfin il veut pas me mettre en porte-à-faux et il dit, est-ce que tu ne reçois pas un invité mardi? Et là je dis, ah bon. Et là je prends mon agenda. Et je dis ah oui c'est mardi. Il me dit c'est ma maman. C'est trop mignon.
C'est mignon.
Donc, je crois qu'il est très content et très fier de vous voir.
Je pense aussi.
Du coup, Lucas, il vous a parlé de Twitch ou pas? Il vous a expliqué
un petit
peu?
Mais oui, mais il m'a montré. Mais j'ai découvert grâce à lui Twitch.
Mm-mm. Il est consommateur lui-même ou pas?
Il joue à Valorant.
Tout s'explique. Le meilleur jeu.
Je sais pas.
Vous jouez aux jeux vidéo, docteur?
Pas vraiment.
Vous avez joué ou pas? Non.
Pas beaucoup.
Ok. C'est un univers assez fascinant. Hein.
Ah oui, je découvre. C'est lui qui me fait découvrir, en fait. Hein.
Voilà. Alors, il y a des fans de ce jeu qui est Valorant, qui est un jeu incroyable, voilà. Et du coup ça donne Lucas le boss, quel homme ce Lucas. Voilà. Alors, moi j'ai découvert il y a assez peu de temps l'univers de jeux vidéo, qui est d'une richesse infinie. Il y a des jeux de toutes sortes, parfois qui sont des vraies œuvres d'art sur un plan pictural ou de la musique ou autre. Et donc on est très... peut-être que Lucas est avec nous aujourd'hui. Normalement il y a cours, mais bon, en tout cas il y a le replay. Pour revenir à notre propos, de quoi parlons-nous? Les virus, les maladies dont on parle, hein, de quoi on parle? Je crois qu'on peut les regrouper sous une appellation, les maladies, les virus dont on veut parler ce matin, les infections respiratoires aiguës, donc ça recouvre notamment la grippe, le Covid-19, le VRS, dont j'ai découvert l'existence moi, il y a quelques semaines en faisant un test et en voyant... que c'était VRS, donc je ne savais pas ce que c'était.
Okay. Hein.
Et est-ce que ça recouvre d'autres maladies ou pas?
Alors, juste oui, pour finir sur le VRS, c'est le virus respiratoire syncytial, et c'est celui qui est le principal en cause dans les bronchiolites des bébés.
Ah, d'accord. Des nourrissons. Mais les adultes peuvent
le contracter. Et chez l'adulte, ça donne plutôt des symptômes de rhume. En dehors des personnes âgées, là, il peut être très sévère chez les personnes âgées. On est en train de se rendre compte, justement, chez les personnes âgées, du fardeau du VRS dans les infections respiratoires chez la personne âgée et qui peut se compliquer et donner des symptômes plus sévères.
Personne âgée, à partir de quel âge? Parce que je suis plutôt jeune docteur, moi. Donc, comme je l'ai eu à Noël. Et d'ailleurs, on va parler de l'efficacité, si on va enlever le sommaire parce qu'il n'y a plus besoin. On va parler de l'efficacité des gestes barrières parce que nous, à la maison, à Noël, on a eu, mon épouse et moi, on a eu un petit peu tout. Et grâce à Hélène, d'ailleurs, on a mis en place des gestes barrières assez radicaux à la maison pour que les enfants ne chopent pas ce qu'on avait et que nous, on ne se donne pas nos virus. Mmh. Et ça a marché à 100%, mais on en parlera tout à l'heure. Donc, personnes âgées, on va dire à partir de 65. 65 bon, encore, c'est dans pas longtemps, alors. Donc, VRS. Donc, VRS, Covid, grippe.
Oui.
Est-ce qu'on oublie des choses ou pas?
Après, il y a tout un tas d'autres virus, des rhinovirus, adénovirus, métapneumovirus, parainfluenza. Enfin, il y en a tout un tas, mais c'est vrai qu'on insiste sur ces trois-là.
Ouais.
Parce que, d'une part, c'est les trois qui sont susceptibles de donner des formes graves. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et d'autre part, c'est vis-à-vis de ces trois-là que nous avons et des vaccins et des traitements préventifs pour le VRS, notamment. On peut donner un traitement préventif au bébé si la maman n'est pas vaccinée pendant la grossesse.
Okay.
Donc c'est pourquoi on insiste vraiment sur ces trois.
Je reviens sur le VRS d'un mot. Parce que moi, j'ai des... Tiens, alors il y a plein de messages intéressants. Hortax, mon papa, 89 ans, atteint de la maladie à corps de Lévy, souffre beaucoup du VRS, limite mortelle pour lui. Moi, j'ai découvert l'existence du VRS en faisant un test à Noël, en me trouvant un peu fébrile. Et donc maintenant, dans les tests, c'est un test où il y a plusieurs résultats possibles. Mm-hmm. Ça, je ne connaissais pas. Et je vois VRS et je me renseigne à cette occasion. C'est moi ou le grand public ne connaît pas forcément
Non, c'est le grand public.
Ben oui.
On ne connaît pas.
Pourquoi?
Oui, le grand public ne le connaît pas. Spécifiquement, on parle beaucoup de bronchiolite,
ouais.
Ça le public connaît,
d'accord,
mais
okay.
C'est vrai que dans environ 80% des cas, la bronchiolite, c'est le VRS qui est en cause. Et comme je vous disais, effectivement, on s'aperçoit que chez la personne âgée, il est responsable d'infections respiratoires graves. D'ailleurs, il y a une recommandation désormais depuis cette année de vacciner contre le VRS les personnes âgées. La difficulté est, c'est que pour l'instant, le vaccin n'est pas pris en charge par la Sécurité sociale. Ça va venir, mais ce n'est pas encore
le
cas.
Vaccin pour les plus âgés, pour le VRS. Et il y a un traitement ou c'est un traitement purement symptomatique
C'est un traitement symptomatique.
Des symptômes.
Ouais,
d'accord.
Ouais, ouais.
Donc attention pour les nourrissons, bronchiolite et pour les personnes âgées. C'est le papa d'Hortac, je crois, qui avait 89 ans et qui en souffrait. Et ça nous permet d'ailleurs de mesurer, de rappeler que par rapport à ces virus respiratoires, vous me corrigez quand j'emploie un mot qui est inexact, on est inégaux, que certains ils sont plus sensibles. Et surtout, la maladie, une fois développée, elle peut être beaucoup plus dangereuse pour les plus fragiles d'entre nous. Donc, les nourrissons, les bébés, les personnes âgées, les personnes, comment on dit, immunodéficientes. Est-ce que c'est...
Oui, immunodéficientes ou immunodéprimées, mais c'est tout à fait ça. On n'est pas sur le même plan d'égalité, effectivement. Pour une personne en bonne santé, jeune... Un virus donné va faire quelques petits symptômes de rhume, nez qui coule, un peu de tout, et puis ça passe. Et pour d'autres, le même virus peut entraîner une détresse respiratoire avec une hospitalisation, besoin d'oxygène, des complications autres que respiratoires. Donc effectivement, c'est important de prendre en compte ces différences de risques en fonction des personnes. Et effectivement, c'est les âges extrêmes de la vie qui sont les plus à risque, donc les petits bébés, en particulier moins de 6 mois, et puis jusqu'à 1, 2 ans, ils sont quand même plus à risque de faire des formes graves. Les personnes âgées, donc de plus de 65 ans. Et puis, comme vous disiez, des personnes donc, immunodéprimées ou immunodéficientes par... des traitements immunosuppresseurs, des traitements du cancer, des traitements, il y a beaucoup de maladies auto-immunes qui se traitent par immunosuppresseurs et donc on a des défenses donc
abaissées
par ces traitements et donc les gens sont plus sensibles et plus à risque de faire des formes graves. Et puis on a aussi tout un tas de personnes qui ont ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire des maladies chroniques, une insuffisance cardiaque, une atteinte du rein chronique, un diabète,
une fragilité respiratoire,
etc., qui sont aussi à risque de faire des formes graves et de ce qu'on appelle décompenser leur maladie, faire une poussée d'insuffisance cardiaque, Voilà. Et donc, ces personnes-là aussi, quel que soit leur âge, avec ces pathologies chroniques, sont à risque de faire des formes graves par ces virus. Donc, c'est important de les protéger.
D'où l'importance, parce qu'en fait, j'ai prévu une progression dans notre échange. C'est fou, hein ? Des gestes barrières, parce que justement, dans les gestes barrières, certains le savent déjà, mais je pense que c'est important de le rappeler, on se protège soi, mais on protège aussi les autres et on va en parler. On va faire un exercice qui est très important sur Twitch. Quand j'ai un invité, je lis moins le chat parce que je suis beaucoup avec l'invité, mais on va vous lire, parce qu'il y a sûrement des questions aussi. Tu as par exemple de Splax Again, à l'instant, je prends un peu au hasard. Hein. Ma sœur a souvent des bronchites. Est-ce que ce vaccin contre le VCR qu'on a évoqué tout à l'heure est une bonne idée pour la soulager, par exemple ?
Alors, il faut voir, il faut en parler avec son médecin traitant. Il faut voir si elle a une pathologie qui, effectivement, la rend un petit peu plus à risque. Donc,
à voir avec le médecin.
Ouais.
On parlait de personnes plus fragiles que d'autres. Omelette de fromage. Alors, le bonheur ici, c'est les pseudos. Hein. Ça prend toutes les formes. Omelette de fromage est un amateur ou une amatrice d'omelette au fromage, bien sûr. Moi, je suis épileptique. Dès que je chope un virus qui donne de la fièvre, je suis quasi sûr de faire une crise. Donc, je ne peux plus rien faire à part rester au lit. Voilà. Je remonte le chat. Voilà. J'ai appris l'existence du VRS avec la bronchiolite. Vaccination de bébé, me dit Sassassou. Bronchiolite, inflammation des bronchioles, me dit Sapion. C'est juste.
Oui, tout à fait.
Alors, vous savez que l'intérêt de Twitch, c'est qu'on a dans la communauté des gens qui font plein de choses différentes. Et il y a aussi des médecins avec nous. Aujourd'hui, ou des personnes âgées, parce que j'ai des personnes âgées dans ma communauté, et des futures mamans et des futurs papas, parce qu'il y a j'ai vu qu'il y avait des naissances qui arrivaient là bientôt, ou aussi des parents de jeunes enfants. Alors oui, Oenir, parlons de cette grippe cette année, parce que il y a ce qu'on entend et il y a la réalité des choses. Il y a Oenir qui nous dit « j'ai chopé la grippe cette année, c'est une tannée après 10 jours, je suis encore épuisé ». On a beaucoup entendu que la grippe cette année, elle était alors dans le phrasé populaire carabinée, qu'elle était particulièrement agressive et qu'elle séchait un petit peu ceux et celles qui l'avaient. C'est vrai ou pas ? Elle est agressive ?
Alors pour l'instant, c'est difficile d'avoir des données très.
On n'a pas assez de recul encore.
Au niveau, en tout cas, de nombre de cas, on est à peu près sur les courbes de l'année dernière. Okay. Elle paraît pas non plus en termes de gravité pour l'instant plus. D'accord. Plus sévère que l'année dernière, mais à suivre. Hein, on est encore en pleine épidémie de grippe.
Alors, je souris parce qu'on a des nouvelles de Lucas. Lucas est passé dans le chat tout à l'heure, mais on l'a raté parce qu'on parlait. Et Choupi Tarsiflette me dit, Lucas est passé, mais il est parti au sport.
Il a cours de sport.
Donc, il faut lui dire qu'on l'a bien vu. Ah, désolé, Lucas. Alors ça, je ne sais pas si notre invité est en capacité de répondre, mais pourquoi pas après tout. Lexi Bird, depuis quelques années, je fais occasionnellement des bains en eau froide en hiver. C'est bon pour la circulation. J'ai vu un article quelque chose dans le Parisien là-dessus, sur cette pratique. L'article disait que ça pouvait être bénéfique et en même temps, que ça pouvait être aussi, quand c'était fait dans des conditions pas encadrées, que ça pouvait être dangereux aussi. Votre avis sur cette pratique ?
Alors moi, je répondrais plutôt, comme je suis sur le risque infectieux, quand on a de la fièvre, on ne fait pas de bain en eau froide.
D'accord.
Il ne faut pas faire un sort de choc thermique trop, trop important. Il vaut mieux prendre des douches tièdes.
D'accord, ok. Ok. Je reviendrai sur vous ensuite, mais on a évoqué donc, les maladies, les virus qui nous intéressaient. Et qui renvoie aux infections respiratoires aiguës. On a vu qu'on était inégaux face à ces maladies, ces virus, selon notre âge ou notre fragilité à la maladie. Et ça nous amène aux gestes barrières. Les gestes barrières, et on va le dire parce que c'est important, et je pense qu'on peut tous témoigner de choses qui nous sont arrivées autour de nous ces derniers mois ou ces dernières années, c'est pour se protéger soi et les autres. Mais ces gestes barrières, quels sont-ils ? Alors, j'en oublie sûrement, se laver les mains. Mm-hmm. Donc ça, je ne sais pas, mais depuis le Covid-19, on a quand même appris à se laver les mains. C'est-à-dire que je ne sais pas si on a des chiffres là-dessus, mais j'ai l'impression que la population française ne s'est jamais autant lavé les mains que depuis le Covid-19. C'est comme si beaucoup avaient découvert de l'importance de se laver les mains régulièrement. Il y a le lavage de mains, il y a le port du masque quand on est malade, hein. Il y a l'aération des pièces. Voilà, c'est les trois
principales auxquelles je pense. Est-ce qu'il faut en rajouter d'autres? Et est-ce qu'on peut développer pourquoi ces gestes barrières sont importants?
Oui, c'est les trois.
C'est les trois principaux.
C'est les trois principaux. Okay. Et c'est vrai que le lavage des mains est bien connu. Probablement le geste barrière le mieux utilisé, le plus utilisé en fréquence. Alors, on peut dire quand est-ce qu'il faut se laver les mains. On se lave les mains. C'est des règles de bon sens, d'hygiène de bon sens, avant de passer à table, après être allé aux toilettes. Après
avoir pris les transports.
Le
matin, je prends le métro et tu sais, quand je pose la main sur la barre de métro, je fais waouh, combien de personnes ont posé la main sur cette barre. Exactement. Et après, je vais me gratter le nez.
Exactement.
Okay.
Quand on a touché tout un tas d'objets qui ont été manipulés par plein de personnes, évidemment, voilà, quand après avoir utilisé les transports en commun, quand on arrive chez soi, pour commencer sa journée chez soi avec des mains propres.
Quand on arrive au travail aussi.
Et
est-ce qu'on se lave suffisamment les mains? Parce que vous disiez, docteur, à l'instant que globalement, le geste est connu. Est-ce que dans une population comme la population française aujourd'hui, est-ce qu'on se lave suffisamment les mains comme geste barrière, quoi?
Alors, c'est probablement la mesure barrière la mieux appliquée, la mieux connue et la mieux appliquée. Après, c'est difficile de savoir, c'est en fonction des activités des uns et des autres. Si on sort beaucoup dans les lieux communs, c'est probablement la mesure la mieux et la mieux connue, la mieux appliquée.
Je sens un mec qui arrive.
Oui, non, parce que c'est vrai qu'on a envie d'insister un peu sur les autres mesures barrières, parce que
juste pour rester sur les mains.
Oui.
Est-ce qu'il y a des différences entre selon l'âge des Français et des Françaises ou le genre? Est-ce que par exemple les jeunes se lavent plus les mains que les personnes âgées ou pas du tout? Est-ce que les femmes se lavent plus les mains que les hommes? Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus?
Alors, il se pourrait, quelques petites études montrent que peut-être les garçons sont un peu moins compliants vis-à-vis de ces gestes barrières. Voilà, donc c'est vrai qu'on peut peut-être insister un peu auprès des garçons.
Je savais que ça allait faire réagir le chat. Team Crado, comme c'est étonnant, les femmes sont plus propres, c'est tout. Les ratons laveurs ne se lavent plus les mains, on est des gros crados. Tiens, tiens. Voilà. Bon, les garçons, un petit effort. OK. Et quant aux âges, est-ce que... parce qu'en fait, à tort ou à raison, j'ai le sentiment que depuis la crise du Covid-19, quand même, on a appris à se laver les mains ou se relaver les mains. Voilà. Est-ce que selon les âges, il y a des populations qui sont plus sérieuses que d'autres sur le sujet ou pas? Ou non?
C'est un peu difficile de savoir. C'est aussi fonction... Voilà, avec les âges, on est à la retraite. Donc, on reste peut-être plus souvent chez soi. Donc, en termes de fréquence de lavage de mains, il faut
voir... Ça dépend aussi de la vie qu'on a.
De la vie qu'on a, voilà. Si on va au travail, si on va chercher les enfants, si on reste tout le temps à la maison, c'est difficile de savoir exactement en termes d'âge.
Donc ça, c'est le lavage de mains. Et vous m'avez dit, docteur, moi, j'aimerais aussi insister sur les autres, parce que celui-ci est répandu...
On peut toujours l'améliorer. Hein.
Voilà, ouais, mais c'est manifestement sur les autres. Donc, je parlais du masque. Voilà, moi, j'ai toujours des masques à... Docteur, je ne mens pas. Hein.
Oui, c'est vrai.
Moi, j'ai eu... on y reviendra tout à l'heure parce que, du coup, moi, dans mon quotidien, j'ai pu expérimenter l'importance des gestes barrières il n'y a pas longtemps parce qu'on a été malade à la maison. Et on a tout fait pour ne pas le donner aux enfants et puis à la famille à Noël. Et ça a marché. Voilà, on est assez content de ça.
Ça, c'est vraiment... C'est vraiment extra, parce que je pense que probablement on sous-estime l'efficacité des gestes barrières. C'est pourquoi on les applique peut-être moins.
Moi, je peux donner un exemple concret. À Noël, avec mon épouse, elle a eu la grippe et j'ai eu VRS, que j'ai découvert le VRS. Voilà, donc on se sentait un peu fébrile, on regarde, on n'a pas le même truc. Déjà, on se dit, ah tiens, c'est marrant. Hein? Et donc, à l'initiative de mon épouse, pour le coup, qui est beaucoup plus carrée que moi sur ces sujets, elle décrète que, déjà, on va porter les masques, y compris à la maison, hein, parce qu'on a deux enfants qui ont 9 ans et 5 ans, donc pour ne pas les exposer. On va porter les masques, on va aérer les pièces plus qu'on ne le fait d'habitude. Voilà, et on va faire chambre à part aussi. C'est-à-dire que les enfants, ces derniers temps, ils sont revenus dormir dans la chambre, ils aiment bien dormir avec nous, donc ils ont leur petit matelas à côté de la maison, on est... Voilà, ça sert à quoi d'acheter un appartement et on dort à 4 dans la même pièce? Là, on a refait chambre à part. Résultat, au bout du bout, je n'ai pas donné mon VRS à Hélène, Hélène ne m'a pas donné sa grippe, et les enfants n'ont rien eu.
C'est top.
Bon, ben, merci Hélène, quoi.
Chapeau.
Donc, voilà, ça, c'est ça qu'il faut faire.
Oui, oui, ça marche. Voilà, c'est vraiment, il ne faut pas sous-estimer ces gestes-là, et c'est la combinaison de tous ces petits gestes, entre guillemets, qui permet de protéger et d'éviter de transmettre ces virus.
Et dans ce que je viens d'évoquer, là, on a parlé du lavage de mains, est-ce que il y a des gestes barrières qui, sur lesquels on a un peu levé un peu le pied depuis la crise sanitaire? Est-ce que le masque, par exemple, le masque dans certains pays asiatiques, hein, c'était pour nous occidentaux, c'était toujours un peu surprenant de voir, par exemple, je crois les Japonais, c'est ça, se protéger au moindre rhume et protéger les autres d'ailleurs. Est-ce que le masque s'est imposé en France depuis le Covid comme un geste barrière au-delà du Covid? Par exemple, on est enrhumé ou on a une grippe, ben on met le masque du coup pour protéger les autres, d'accord, pour pas le donner. Ou est-ce que pas encore ou pas assez?
Mais non, c'est vrai que on a réactivé tous ces gestes barrières pendant la pandémie de Covid, donc on les connaît, ils ont été appliqués pendant la pandémie de Covid, mais c'est vrai que maintenant on les oublie un petit peu. Et ils ont été un peu trop associés au final au Covid.
Au Covid, en fait, c'est
voilà.
Ça.
Et en fait, ce qu'on souhaiterait bien préciser, c'est qu'ils sont efficaces contre, là, on parle en particulier des infections respiratoires aiguës. Donc, ils sont efficaces sur tous les virus responsables des infections respiratoires aiguës. Donc, le Covid, mais aussi le virus de la grippe et donc le VRS et tous les autres virus évoqué précédemment. Et donc, c'est vraiment important de les mettre en place, évidemment, en particulier l'hiver, où on est en pleine épidémie de grippe, de bronchiolite, où il y a du VRS également qui circule. Et donc, ces gestes, cumulés les uns avec les autres, permettent vraiment d'être bien protégés contre tous ces virus d'infection respiratoire. Ils viennent en complément, évidemment, de la vaccination pour les personnes qui sont ciblées par les recommandations de
vaccination.
De vaccination. Ouais. Et donc ces virus respiratoires, donc on a vu, bon, ils peuvent se transmettre par les mains quand on éternue dans ses mains et qu'on appuie sur une poignée ou sur et on met du virus un peu partout.
Un
et
bouton quelqu'un, d'ascenseur.
Voilà, mmh. Quelqu'un qui passe derrière et qui retouche le même objet et qui porte les mains au niveau des portes d'entrée des virus respiratoires, c'est-à-dire les muqueuses, c'est-à-dire le nez, la bouche, ouais. Les yeux, évidemment, ça peut se transmettre. Mais de manière principale, les virus respiratoires se transmettent par l'air, par voie aérienne.
De manière principale?
Oui.
D'accord.
De manière principale. Mmh. Et donc, d'où l'importance du masque et d'aérer les pièces. Donc c'est pourquoi ça, je pense que c'est moins bien connu l'importance de ces deux mesures de prévention, parce que quand on parle, alors encore plus quand on tousse ou quand on éternue, on envoie des et qu'on est malade, on envoie donc des particules infectieuses qui se mettent dans l'air, qui vont les grosses gouttelettes vont tomber à 1 ou 2 mètres de distance, mais il y a aussi un aérosol de fines particules qui peut aller plus loin.
Plusieurs mètres.
Plusieurs mètres, par exemple, quand on éternue,
ouais.
Ça peut aller à 50 km heure,
okay.
Et ça peut aller jusqu'à 6 mètres de distance.
Vous avez, donc quelqu'un éternue dans la rue à 6 mètres de moi, voilà, 50 km heure en courant, vous n'y échapperez pas, on peut potentiellement être contaminé.
Voilà, donc il vaut mieux ne pas être en face.
Okay.
Là aussi, le face-à-face, évidemment, est plus à risque. Il y a toute une gradation de risque au final par rapport à ces particules infectieuses qui sont.
Vous vous souvenez, pendant la période du Covid, on voyait des gens parfois qui. On va pas jeter la pierre hein, parce qu'on n'est pas toujours bien informé, mais qui éternuaient et qui, pour éternuer, enlevaient leur masque.
Oui, oui, tout à fait.
Je vais prendre quelques questions dans le chat. Moi, ce que je vois aussi dans une ville comme Paris, parce que je suis parisien aujourd'hui, c'est que je vois quand même beaucoup plus de masques aujourd'hui dans la rue qu'avant la période du Covid. Donc, il y a quand même des gens qui ont intégré ça.
Oui, oui, hein, tout à fait.
Vous me dites que c'est insuffisant encore en nombre de monde, mais je vous lis, j'essaie de prendre quelques questions. Oui, ah oui, bah, tiens, ça permet d'aborder un autre geste barrière qu'on n'a pas évoqué. Projet One Shot. Il y a un geste barrière que je vois perdurer depuis le Covid. Les serrages de main, bises ont pratiquement disparu. Parmi les gestes barrières, on peut peut-être citer aussi, enfin, moi, ce que j'appelle les embrassades.
Tout à fait. Oui, oui.
C'est-à-dire les contacts, alors c'est poignée de main, hug, bise. Alors, ça, il faudrait plus le faire, ça.
Bah, c'est clair que quand on a des symptômes, alors des symptômes respiratoires, hein, ils sont divers et variés. Et globalement, tous ces virus donnent un peu les mêmes symptômes. Hein. Le nez qui coule. De la toux ou mal de gorge, de la toux, des éternuements, de la fièvre. Dès qu'on a des symptômes, il vaut mieux éviter les contacts. C'est évidemment la première des précautions, comme on disait. Plus on se rapproche, plus on a de risque de transmettre ces virus respiratoires. Donc la première des précautions, c'est de ne pas aller embrasser les gens au contact. Voilà, garder de la distance le plus possible. Et puis au mieux, c'est évidemment mettre un masque si on ne peut pas garder une distance ou si on est obligé de côtoyer des personnes. Bien, on met un masque.
Ça, j'ai l'impression que ça s'est développé parce que quand même depuis le Covid. Dans l'entreprise, par exemple, la poignée de main, parfois la bise, ça s'est beaucoup raréfié. On salue parfois la cantonade comme ça, où on fait un check aussi qui est peut-être un peu moins, tu vois. Ça a progressé quand même.
Oui, tout à fait.
Donc l'infectiologue que vous êtes, à mon avis, ça a dû vous faire plaisir de voir.
Ça progresse, c'est bien.
L'univers de Twitch. Une des raisons pour lesquelles je l'aime, c'est qu'aussi, il y a beaucoup d'humour. Voilà. Alors, dans les pseudos, Alain Prout, on se régale. Voilà. Ou alors, on embrasse uniquement les personnes qu'on n'aime pas trop. Alors, non, c'est pas un coup. Voilà. Moi, c'est ce que j'aime aussi ici. Alors, je vois la question de Floxy, qui dit, est-ce que c'est pas juste normal de tomber malade? Et je la renvoie à une autre question que j'ai vue tout à l'heure, mais je trouvais que c'était trop tôt pour la poser, mais maintenant je la pose. C'est quelqu'un disait, mais est-ce que à trop se protéger, à trop mettre en place les gestes barrières, est-ce que finalement, on n'affaiblit pas nos défenses? Est-ce que ce n'est pas bien aussi que les maladies circulent pour renforcer Est-ce que ça ne nous affaiblit pas pour plus tard, quoi? J'ai trouvé ça intéressant. Oui, je voulais vous la poser.
Alors, non, ça n'affaiblit pas le système immunitaire, pas du tout. On a toujours aux alentours de nous des agents infectieux vis-à-vis desquels on est confronté. Des virus, il y en a des millions un peu partout, des bactéries aussi, on a des germes un peu partout. On est confronté tous les jours dans tout ce qu'on fait à tout un tas de microbes. Donc notre système immunitaire, il fonctionne bien. Et pour ce type de virus dont on parle là, il est toujours préférable d'éviter l'infection que de l'avoir. Donc il vaut mieux se vacciner, faire quand on fait partie des recommandations vaccinales. Donc il vaut mieux se vacciner et faire les gestes barrières, éviter l'infection que de l'avoir.
D'ailleurs, on parlera aussi de la vaccination, parce que ce n'est pas proprement parler d'un geste barrière, mais on en parlera aussi. On a un message sympathique de Nexa. Merci pour la qualité des échanges. Nous suivons depuis le CHU de Toulouse. Ami de Toulouse, bonjour. Et c'est très bien ce que vous faites. Merci pour ça. L'Omédie, Occitanie. L'Omédie, c'est un organisme peut-être médical, je suppose.
Oui, des médicaments. Tout à fait.
Merci à vous. C'était la question de Super Panda. Est-ce qu'on n'a pas un risque à long terme de réduire nos défenses immunitaires dans une société hygiéniste? Vous venez de répondre à cette question. Je remonte dans le chat. Je vois plein de questions sur les vaccins aussi, sur d'autres sujets. C'est pas le sujet, mais c'est très intéressant sur les vaccins contre les papillomavirus. Ça, c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé, mais ce n'est peut-être pas le sujet ce matin. Y a des inquiétudes dans le chat par rapport à la période actuelle avec plein de virus qui circulent. Steve Louvre, je suis infecté par le Covid, la grippe ou grippe intestinale depuis une semaine. Mon père est venu m'aider, il est vacciné Covid et grippe. Aujourd'hui, il est rentré et ma mère n'est pas vaccinée. J'ai un peu peur pour elle. C'est peut-être l'occasion de parler du vaccin. Moi, je dois être visé, sans doute ciblé par les recommandations, peut-être lié à mon âge, mais j'ai reçu depuis quelques années, je reçois un papier quand l'hiver arrive pour que je me fasse vacciner contre la grippe. Je pense que c'est lié à mon âge. Je pense qu'on a plus de 50 ans, je suppose. un truc comme ça.
Ouais. Non, 65.
Ah bon? Alors c'est peut-être pour une autre raison. Bref, je reçois le papier pour me faire vacciner. Et donc du coup, moi j'ai fait le double grippe, Covid, voilà, en même temps.
Oui.
On a deux bras, je me suis dit, voilà. Du coup, j'ai pas eu le Covid et la grippe. En revanche, mon épouse a été grippée alors qu'elle a été vaccinée. Est-ce que dans ce cas, le vaccin permet d'avoir une forme atténuée de la grippe? Est-ce que le vaccin protège quand même un peu ou pas?
Si, tout à fait. Le vaccin grippe protège contre les formes graves de grippe. Donc, ça permet d'éviter les hospitalisations. Et ça atténue fortement les symptômes de la grippe.
Parce que le viewer nous parlait de sa maman, hein, qui n'était pas vaccinée, contrairement à son père. Et lui étant malade, s'inquiétait un petit peu. Je vois plein de témoignages sur le... Ah bah c'est la question de Samy. Alors on est un petit peu, on est sur les vaccins et pas sur les barrières, mais je vais la prendre dans un instant, mais je la trouve intéressante. Ma maman est anti-vax. Pendant la crise sanitaire, on a beaucoup eu ces débats, bien sûr. Hein. Mon grand frère a failli mourir d'un vaccin quand il était bébé dans les années 80, me dit Samy. Comment la convaincre de faire confiance au vaccin aujourd'hui? Alors ça, c'est une vaste question.
Je pense que elle peut consulter son médecin traitant, discuter avec lui. C'est important d'échanger, de faire part de ses craintes, ses hésitations, voilà, d'en discuter avec son médecin, avec son pharmacien. Et puis il y a des sites internet maintenant qui sont très pédagogiques sur vaccination info service. Voilà, faut qu'elle en parle et qu'elle exprime ses inquiétudes, et on va essayer de répondre à tout ça pour la rassurer. Et on ne peut pas dire grand-chose d'autre que malgré tout, la vaccination, c'est la meilleure arme contre les maladies infectieuses. Hein, donc, c'est vraiment important. Et puis, pour chaque personne, en fonction de son âge, en fonction de sa situation médicale, les vaccins sont recommandés, d'autres pas. Donc, on adapte au mieux en fonction de chaque personne.
Pour la grippe, par exemple, aujourd'hui, le vaccin contre la grippe, puisqu'on est dans la période, il est recommandé pour quelle population? Les personnes âgées?
Oui.
Et d'autres personnes ou pas? Les femmes enceintes, peut-être?
Oui, les femmes enceintes. Donc, les personnes âgées, les personnes immunodéprimées, les personnes qui ont des maladies chroniques qui sont du coup à risque de faire des formes graves de grippe. Donc les femmes enceintes, on a dit.
C'est à peu près, voilà, c'est pas la population.
C'est les principaux groupes de personnes.
Que ça vise. Samy nous remercie pour la réponse. merci pour la réponse. C'est important chez moi. Mon père est en plus à risque, en pleine chimio. Samy, je crois que c'est toi qui nous parlais de ton papa qui lui était vacciné et ta maman qui ne l'était pas. Je remonte dans le chat. Alors vous avez vu, c'est très compliqué de répondre à tout le monde. C'est impossible en fait. Là, vous êtes un peu plus de 3000 et vous êtes beaucoup à participer. Donc je m'excuse que je ne prends pas toutes les questions. Je confirme que le vaccin grippe fonctionne, me dit Cern, mais n'enlève pas tous les symptômes. Vous parlez d'un site internet sur les vaccins. À ce propos, pardon, j'ai oublié. Si vous tapez point d'exclamation geste au pluriel dans le chat, vous avez accès au site de Santé publique France, hein, qui est à l'origine de cette communication que nous faisons ce matin sur les gestes barrières, voilà, que je vais épingler d'ailleurs. Tiens, il y a un sondage qui est intéressant sur les gestes barrières, justement. Donc, si vous voulez un petit peu retrouver tout ce qu'on se dit là sur les gestes barrières, leur importance, quels sont ces gestes barrières, pourquoi, vous avez le site que je vais épingler dans un instant en tapant point d'exclamation geste au pluriel dans le chat. Et il y a un sondage qui a été lancé par les modérateurs. Alors comme je ne l'ai pas signalé, il n'y a pas eu trop de participants, mais c'est de ma faute parce que je n'ai pas vu le sondage. Et merci au modo de l'avoir fait. Es-tu vacciné? Ah, il est parti. Je vais le retrouver ici. Gérer le sondage, voir les résultats. Voilà. Es-tu vacciné? Pas du tout 34%, alors, sauf qu'on ne sait pas de quel vaccin, mais oui contre le Covid, 31%. Oui, les deux, 26%. Bon, là, on a un public sur Twitch qui est assez jeune. Quand je dis jeune, c'est vous avez un 75% entre 18 et 35 ans, hein, pour faire simple. Oui, contre la grippe, 6%. Et j'y réfléchis, 3%. OK. Donc, les chiffres sont plutôt...
c'est plutôt bien.
Hein. Important. Mmh. Hop, je reprends le chat et je vais épingler, le site dont je vous parlais. Comme ça, si vous voulez aller voir, je suis allé voir, c'est plutôt bien fait. Voilà, vous l'avez en haut du chat. Geste barrière, proton... protégeons-nous les uns les autres. Parce que moi, c'est un truc que j'ai... Je suis un peu lent à la détente. Mais c'est un truc que j'ai fini par comprendre au fil des années, c'est que ces gestes barrières, quand on est jeune et en bonne santé, c'est pas tellement pour se protéger soi. Mm-hmm. Parce que nous, quand on chope ces virus-là, c'est quelques jours désagréables. Mais ça se finit bien, quoi. Mais c'est surtout pour protéger les autres.
Exactement.
Et les fragiles.
C'est vraiment un geste solidaire. Et c'est pour protéger les plus fragiles, donc les petits bébés, les personnes âgées, les personnes immunodéprimées, les femmes enceintes. Donc c'est important, ouais. D'y penser et de faire tout pour protéger notre entourage proche. Et puis également dans les transports en commun, on peut avoir des personnes immunodéprimées à côté de nous dont on ne sait pas. Donc c'est important aussi de protéger tous les gens qu'on peut côtoyer. Et en plus, chez les personnes immunodéprimées, elles se vaccinent bien sûr, mais le vaccin marche moins bien. Donc c'est important qu'elles soient protégées par la communauté, par tout l'entourage.
Quand je vois une personne avec un masque dans la rue, je pense toujours à ça. Je me dis, c'est peut-être une personne qui a peur d'attraper quelque chose en cette période de circulation intense des virus. Mais c'est aussi une personne qui est peut-être malade là depuis quelques jours et qui alors, ne se protège pas elle, puisque du coup c'est fait, hein, mais qui protège les autres. Ouais. Et ça, je trouve ça, à chaque fois, je me dis ça. Je remonte le chat, hein, je remonte vers vous. Et j'essaie de trouver les questions qui reviennent le plus. Voilà. J'ai une tumeur, me dit Marie-Lyon. Force à toi, Marie-Lyon. Je me suis vaccinée. J'ai demandé à tous les grippés de ne pas venir chez moi à Noël et de se faire vacciner. J'ai ma voisine d'hôpital qui n'a pas pris cette précaution. Elle est faible de fou. Ben nous, à Noël, on en parlait. Nous, on a eu les petits virus à la maison là, qu'on a réussi à pas donner. Et du côté de mon épouse en Franche-Comté, elle a la chance d'avoir encore sa grand-mère. Qui a dépassé les 90 ans, qui va doucement vers les 100 ans. Et nous, on avait déjà décrété, puisque quelques temps avant Noël, on avait été malades tous les deux, que si jamais on avait encore un doute sur le fait qu'on soit malade, on n'irait pas. Donc on s'est testé, et puis un peu avant Noël...
Puis on décale la réunion de famille. Exactement. Un peu plus tard, quand tout le monde est en forme.
On était plus positif, on est allé, et malgré tout, en gardant les distances, en évitant les embrassades et en ayant le masque quand on parlait avec Mamou, que je salue, qui est peut-être avec nous ce matin sur le stream. Que doivent faire les personnes qui sont jeunes mais ont de l'asthme, se vacciner systématiquement? La question de Sextasie est intéressante parce que est-ce que l'asthme est considéré comme une fragilité par rapport à ces virus?
Alors vraiment, il faut voir avec son médecin traitant pour voir la gravité de l'asthme et si la personne rentre dans les recommandations.
Ça peut l'être.
C'est possible.
Ça peut l'être. D'accord. Si vous avez besoin d'un verre d'eau ou d'un truc, vous me dites.
Merci, ça va.
Hein, vous êtes en train de me filer un virus, hein?
Non, j'avale le travers.
Vous me dites si vous voulez un verre d'eau. Hein. Non, en vrai. Je remonte le chat. Hop. Le fait, c'est mignon, parce que ce qui est intéressant dans un chat tweet, c'est qu'on parle un peu du quotidien, mais c'est ça qui est intéressant, parce que du coup, tout ce dont on parle devient très concret. Ce n'est pas un discours général. Le problème avec le fait de vouloir esquiver les gens quand on est malade, c'est qu'on est parfois mal vu, surtout nos grands-parents, dit Alien. Là, il faut se parler.
Il faut dire que c'est pour protéger. Quoi. C'est pour les protéger, je pense.
Protéger, quoi.
Ils comprendront...
Julien applique ce qu'on vient de dire. Ma mère et moi ayant une grippe à Noël, finalement, le repas en famille aura lieu le 25 janvier. Voilà. De cette année, du coup, vous avez repoussé à l'année prochaine. Retsno, salut Retsno. J'ai une personne dans mon entourage qui critique très fort le masque en mode il y a des micro-particules qui passent, ça sert à rien. Quelle réponse lui apporter? J'ai pas les connaissances adéquates au-delà de lui dire t'es un égoïste, j'ai pas les clés. Alors, c'est intéressant ça. Est-ce que le masque laisse passer ou pas?
Alors, ça fonctionne, le masque. On n'ira pas jusqu'à du 100%.
Ouais.
Le masque chirurgical, il fonctionne très, très bien quand on est malade pour éviter les projections, justement, de ces gouttelettes petites et grosses. Donc ça protège très bien de cette projection de virus. Quand on est, par exemple, immunodéprimé, c'est bien de mettre un masque chirurgical, ça protège bien. Le masque qui protège encore mieux quand on est immunodéprimé, c'est le masque qu'on appelle FFP2.
Ah, je me souviens de ça.
Voilà. Qui est un peu plus, peut-être, probablement un peu plus difficile à supporter, surtout ouais. Pendant ouais. Un long moment.
Ouais, c'est plus
mais
lourd, ouais.
C'est le masque qui protège de l'inhalation de particules infectieuses. Mais vraiment, quand on est malade, le masque qu'on appelle anti-projection, masque chirurgical, il protège bien de... Voilà.
Le classique.
Exactement. Il protège bien de la projection de particules infectieuses.
Le FFP2, le fameux masque canard, comme dit Danette Vermicel. Voilà. Voilà. Quelqu'un, y a des gens qui me parlent d'un FFP3. Firendor, il y aurait une nouvelle norme FFP3, ça vous dit quelque chose?
Non, sur le plan infectieux, c'est masque chirurgical ou FFP2.
Alors, bon, nous, on est là à répondre toutes les questions. On n'est pas obligé de tout savoir. Il y a Jalo qui dit, désolé, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire immunodéprimé.
Ah,
je comprends rien. Alors, immunodéprimé.
C'est des gens qui ont un système immunitaire qui est affaibli. Donc, les défenses immunitaires, c'est tout un système donc, qui permet de se défendre contre tous les microbes. Et ces personnes-là, du fait de certaines... pathologies ou de certains traitements ont des défenses immunitaires qui sont affaiblies. Du coup, ils sont plus sensibles aux infections et plus à risque de faire des formes graves d'infection.
C'est ça, immunodéprimé.
Exactement.
J'ai une question qui fâche. Enfin, c'est moi qui vais la faire. La question de... Il y a d'abord un message de Yanosystème. Les gestes barrières sont un véritable travail de fond. Même des professionnels de santé peuvent en avoir une application incomplète ou des notions d'hygiène insuffisantes. Cela montre à quel point ces pratiques doivent être rappelées. Expliquer, répéter en permanence pour être réellement efficace. Et du coup, ma question qui fâche, elle est celle-ci. Docteur, vous côtoyez des gens qui travaillent dans l'univers de la santé, des médecins. Est-ce que les personnels de santé, eux-mêmes, pratiquent rigoureusement ces gestes barrières ou même parmi ces populations qui devraient être plus au courant, on voit qu'il y a encore des progrès à faire?
Oh, y a toujours des progrès à faire, comme il y a des personnels de santé anti-vax, très peu, mais il y en a aussi. Et effectivement, même des professionnels de santé peuvent progresser. Et c'est pourquoi il faut en parler, le rappeler, et c'est ce qu'on fait ce matin auprès de tous. Hein. Tout le monde est concerné.
Ah, bonne question de Anto Horda. Pourquoi a-t-il fallu attendre un virus qui a paralysé le monde, tu parles du Covid-19, pour porter des masques, alors que les maladies dont on parle ont toujours été présentes? Alors que certains pays, je parlais du Japon, peut-être que je ne suis pas un spécialiste de santé publique, est-ce que c'est vrai qu'on a l'image du Japon.
Ils sont plus sensibilisés.
Il y a d'autres pays que le Japon d'ailleurs qui, historiquement, plus que nos sociétés occidentales, ont comme ça, par exemple, porté le masque quand ils étaient malades d'un rhume ou d'une grippe.
Au niveau asiatique, ils sont plus...
Globalement. Et pourquoi ?
Il y a aussi une histoire de pollution, mais potentiellement une idée que le masque puisse protéger vis-à-vis de la pollution.
Atmosphérique. Ce serait lié à ça. D'accord. Parce que c'était une question que je me suis toujours posée.
Mais c'est vrai qu'au niveau français, on n'y était pas très sensibilisés. Maintenant, c'est rentré un peu plus dans les pratiques, mais on peut encore mieux faire.
Le chat propose des pistes de réflexion. Sakabres dit parce que les Japonais sont plus disciplinés aussi par rapport à certaines normes sociales. Et Loïc répond en dessous parce que les Français sont égoïstes. Il y a aussi Vessi Sparda qui nous dit que les pays asiatiques se sont pris des infections type Covid en 2013, enfin des infections respiratoires. Et peut-être que ça a joué aussi. Et effectivement, Vessi Sparda parle de la pollution atmosphérique en Chine. Je connais pas bien la Chine, mais à une époque, je suis allé à Shanghai. J'ai été surpris par la qualité de l'air. L'air est jaune. Il y a un vrai problème de pollution atmosphérique en Chine qui est lié à l'industrie, à la circulation automobile, même si c'est en train d'évoluer d'ailleurs dans ce pays. Voilà, c'est ce que dit Wispy. On parlait du Japon, il n'y a-t-il pas aussi l'aspect social dans ces pays? Cette notion de collectivité, l'image que la société a d'une personne est très importante. Alors, puisque vous êtes une spécialiste de santé publique, je me permets de la question de patate cuite des îles, parce que je vous ai sous la main. Est-ce que dans une ville comme Paris, mais dans d'autres endroits en France, on a un sujet aussi de pollution atmosphérique, hein, est-ce que le masque peut protéger de la pollution?
Alors oui, un petit peu.
Un petit peu, quoi.
Un
mais
petit peu, ouais. Oui. Après, si on en revient, je voulais reparler en termes de, si on en revient à la pollution, il ne faut pas oublier la pollution intérieure des locaux.
Ouais.
En fait, on a tout un tas de meubles, d'informatique, de peinture,
de produits d'entretien,
voilà, qui émanent des polluants. Donc, pour en revenir aux gestes barrières de l'aération des locaux, et donc ça a un impact sur, comme on parlait des particules infectieuses qu'on aurait mis en suspension en éternuant, en toussant, et donc le fait d'aérer les locaux, ça renouvelle l'air intérieur, ça dilue les particules infectieuses, et ça a un impact aussi sur la pollution intérieure. Donc c'est vraiment important d'aérer tous les jours les locaux dans lesquels on est, et donc qui plus est quand il y a des gens malades, c'est vraiment quelque chose auxquels les gens pensent moins. Ils sont peut-être aussi freinés du fait de l'hiver parce qu'il fait froid, et donc du coup du chauffage, voilà, et de pas faire rentrer le froid.
C'est aussi des raisons pour lesquelles les virus circulent davantage l'hiver, d'ailleurs.
Mais exactement, c'est parce que, en fait c'est tout à fait ça.
On est plus en vase clos.
On est exactement enfermé dans des locaux avec parfois beaucoup de personnes, beaucoup de promiscuité, et donc c'est vraiment dans ces lieux clos, parfois mal aérés, mal ventilés, avec beaucoup de personnes, où c'est là où on se transmet tous les virus. Donc déjà de renouveler l'air, donc aérer régulièrement en faisant des courants d'air les locaux, eh bien on diminue très nettement, et c'est vraiment prouvé par les études, le risque de transmission des particules infectieuses.
Quand on dit aérer très souvent, j'ai l'impression que à la maison, ce réflexe d'aérer, il est dans beaucoup de foyers, il est pris d'aérer. Dans le monde professionnel, pas forcément.
Exactement.
Au bureau, est-ce qu'on aère? Ben, je pense qu'on n'a pas ce même réflexe. On n'est pas chez soi, on n'en a pas la gestion directe. Mais quand on dit aérer, par exemple, un domicile ou un lieu professionnel, c'est combien de fois par jour pour être un peu concret? Est-ce que c'est deux Alors... fois? Est-ce que c'est 4-5 fois? Vous voyez?
On va dire au minimum une fois par jour.
Au minimum, d'accord.
Tiens, et c'est
clama coquine, 10 minutes par heure. Au bureau, c'est l'enfer, je veux errer, personne ne veut. Voilà,
oui.
C'est ça. Et oui.
Mais 10 minutes, voilà, 10 minutes.
Donc 10 minutes par jour, c'est un minimum. Idéal.
Oui. Oui, après, tout dépend du nombre de personnes. S'il y a des gens malades, voilà, on peut aussi le faire dans des situations... stratégique. Il y a eu une réunion avant une réunion ou après une réunion où il y a eu 20 personnes dans une salle.
Et là, ce jour, je suis sûr qu'on n'a pas ce réflexe-là. On l'a pas encore. Moi, je suis beaucoup en réunion. Alors, il y a Teams, bien sûr. C'est bien Teams contre les virus.
Oui, ça sera.
Mais hier, j'ai fait une réunion en présentiel avec une équipe. On n'a pas aéré avant ni après. Et on a traversé un open space. J'étais impressionné par ce open space. Il y avait 50-60 personnes. Ça travaille, ça bosse, mais tout est fermé. Les gens sont là toute la journée. Et je vois des messages. Stifler nous dit, qui a pour premier réflexe le matin d'ouvrir la fenêtre? Moi, je pense qu'on est une majorité, mais je me trompe peut-être. Et il y a une question de Mademoiselle Bébé qui est intéressante. Les chambres d'hôpital sont pourtant rarement aérées.
Alors après, on a souvent des chambres uniques, surtout par exemple en service de maladies infectieuses. Donc il y a une seule personne. Et on fait, il y a un système
de ventilation.
On n'aère pas par les fenêtres, mais il y a un système de ventilation.
Omelette de fromage dit compliqué d'aérer des locaux quand il fait 0 degré, mais tu n'aères pas 2 heures, quoi. Tu aères en 5 minutes si tu ouvres. Et c'est Sugar.
Pour renouveler l'air. Voilà.
Voilà. Et Sugar disait, il est plus facile de réchauffer un air sec. Là, on rentre dans l'analyse de spécialiste qu'un air humide, donc il ne faut pas hésiter à aérer. Il ne s'agit pas d'aérer pendant 2 heures, quoi. Du coup, nous, on a ce réflexe à la maison maintenant. Encore une fois, ça vient de mon épouse. Et d'ailleurs, dans l'enquête, parce que en fait, Santé publique France, qui est à l'origine de cette prise de parole ce matin sur le sujet des gestes barrières, m'a envoyé des documents. Alors, j'ai vu un truc intéressant. J'ai vu que, les femmes, globalement, pratiquaient mieux les gestes barrières que les hommes. C'est vrai, ça?
Oui, oui.
Mais de façon notable ou c'est à la marge?
Non, c'est quand même à la marge.
Ok, donc on parlait tout à l'heure du lavage de mains pour les garçons, mais globalement, les gestes barrières
sont plus sensibilisés à ça.
D'accord. Mm-hmm. Et à l'inverse, pour la vaccination, ce serait l'inverse, c'est-à-dire que que les hommes, sur les vaccins dont on parle, donc Covid grippe, se vaccineraient plus que les femmes ?
Oui, elles peuvent avoir un petit peu plus d'hésitation, de réticence. Après, elles sont souvent plus confrontées à la décision de vaccination pour elles-mêmes et pour les enfants. Donc là aussi, c'est un élément à prendre en compte.
Alors justement, Pierrot El Fuego me précise, effectivement, tu as peut-être raison, dans les bâtiments neufs, puisque hier, je parlais de cet open space où il y avait 60 personnes, tu n'as normalement plus besoin d'ouvrir les fenêtres. Normalement, il doit y avoir une ventilation. Mm-hmm. Okay. Oui, dans les bâtiments modernes, normalement, ça doit être pensé. Les amis, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce que je voulais qu'on évoque, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Vous me dites, docteur, si vous êtes prise par le temps ou pas. Hein, mais je ne dirais pas que les femmes sont plus sensibilisées, mais sont peut-être plus averses au risque. Vispata, tu veux dire peut-être...
Plus conscience du risque.
Conscience du risque, peut-être. Ok. La ventilation remplace-t-elle efficacement l'ouverture des fenêtres ? Ça, Cyril, je n'ai pas la réponse à cette question. Quoi. Il y a surtout une différence générationnelle, dit Homer. Nos anciens se font vacciner sans souci. Les 25-45 ans sont plus méfiants. Est-ce que c'est vrai ?
Oui, c'est vrai que pour la grippe, les personnes de plus de 65 ans se font plus vacciner que les 18-64, qui pourtant ont un facteur de risque comme une maladie chronique et qui devraient se faire vacciner. Ils ressentent moins ce risque-là et se font un peu moins bien vacciner que les personnes âgées.
Ok, très bien. Je vous lis. Docteur, si vous voyez une question que je ne relève pas et dont vous voulez vous emparer, vous me dites qu'il y a Lazareth qui parle de l'Allemagne, du modèle allemand. L'aération est une tradition, quasi une obligation dans le monde du travail en Allemagne, ça je l'ignorais. 10 minutes toutes les 2 heures, généralement, c'est très commun. Bon, je ne le savais pas. Merci Lazareth. Ah, tous les matins, on aère le bureau pour renouveler l'air, ça fait du bien, c'est important, me dit Neko. Ils sont formidables, ces viewers, ils font tout bien. Moi, c'est une question que je me pose. Panup, est-ce que la climatisation peut être un accélérateur de virus ? Enfin, quelque chose qui diffuse avec des filtres qui, par exemple, qui seraient mal nettoyés.
Si elle est mal entretenue, oui. C'est sûr que ce n'est pas forcément une bonne chose.
Ouais, voilà, c'est ce que dit Xavier. Si pas entretenu, oui. Vous me dites, docteur, si vous avez une question dont vous voulez vous emparer. Quoi. Comment ça, les femmes ont généralement un meilleur système immunitaire, me dit Baptiste. C'est vrai, ça, docteur ? Les femmes ont un meilleur système immunitaire ?
Je crois qu'on est à égalité quand même.
Bon, en tout cas, sur la ventilation, on a beaucoup de convaincus.
Ah, c'est bien d'avoir la conscience que les virus, bon, on les voit pas, mais quand on a toussé, quand on a éternué, ils sont dans l'air, ils restent quelques heures dans l'air. Donc
on a vu tout à l'heure un sondage. On a vu un sondage qui a été lancé pour les modérateurs, je vous en remercie, sur les vaccins. On va faire un sondage, nous, auprès de notre communauté, sur les gestes barrières. Mm-hmm. Est-ce que les gestes barrières qu'on a évoqués, nous, ensemble, ce matin, pour se protéger et protéger les autres contre les infections respiratoires aiguës qu'on a évoquées, là, Covid, grippe, VRS, etc., est-ce que ces gestes barrières, on va les rappeler les principaux, lavage de mains, masque et aération, est-ce que vous les pratiquez ? Voilà, ces 3 gestes barrières. Pratiquez-vous. Donc, pour simplifier, on va rester sur ces 3 gestes barrières qui sont les plus essentiels. Perso, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je prends le TGV, je chope un truc, me dit « not to kill », comme si la ventilation du train partageait tous les miasmes aux passagers. Alors moi, souvent, en train, moi, je porte un masque. Mm-mm. Je me dis qu'on est en vase clos pendant un certain temps. Pratiquez-vous ces gestes barrières. Ça, c'est un outil assez incroyable. Alors.
Donc, port du masque, voilà. Dès qu'on a des symptômes, en personne, en présence d'autres personnes.
Ouais.
Personnes fragiles ou d'autres personnes.
Voilà, port du masque, lavage des mains, fréquent. Voilà, aération de pièces quand on peut. Et puis, on évite ce qu'on appelle les embrassades, les contacts physiques quand on a un doute sur son état de santé. Okay. Pratiquez-vous chez cette barrière. Alors, je vais mettre oui avec rigueur. Voilà. Vraiment, vous êtes hyper carré là-dessus. Oui, comment je pourrais le dire mais de façon incomplète. Hein. C'est-à-dire que pas tous ces gestes barrières ou pas avec rigueur. J'essaie de coller à ce qui pourrait être votre réponse. Non.
Hein, voilà. Non, jamais.
Voilà. C'est pas mal, ça. Voilà. Donc, pratiquez-vous ces gestes barrières. Oui, avec rigueur. Oui, de façon incomplète. Ou non. Voilà. Et je pense que c'est pas mal. Ça va nous donner une petite idée. Voilà. Je ne sais pas, parce que... Alors, si vous ne savez pas où vous en êtes, si vous êtes perdu, je crée une catégorie... Ça arrive. Les élections sont pas réveillées. Donc, vous avez 2 minutes pour voter et le sondage est en haut du chat. Voilà. Et ici. Il y a Stufis qui propose une réponse au sondage qui aurait été non avec rigueur. C'est le PIM. Parce qu'en fait, les échanges qu'on a, parfois, c'est des sujets au sein des familles aussi. Hein. Ouais. C'est le PIM, j'ai toujours l'impression que mon entourage se lave trop peu les mains et ils me mettent l'étiquette de germaphobe alors que je pense juste à faire attention de manière normale quoi. Hors taxe, je nettoie mon clavier et ma souris tous les jours, ni à cochonnerie. Alors ça j'avoue je le fais pas ça. Alors, voyons les réponses qui sont en train de se faire. On est à peu près à 41 minutes à peu près de sondage. On a déjà plus de 300 personnes qui ont voté. Voilà, donc c'est intéressant. Voilà, j'attends un petit peu, mais c'est intéressant ce qui se dessine.
Quelqu'un qui dit qu'il aurait fallu faire un sondage par geste barrière parce qu'on peut en pratiquer un, mais pas les autres.
Ouais, donc du coup, j'ai regroupé ça de façon incomplète. Et après, on peut faire un deuxième sondage pour préciser. Quoi.
Mais c'est vrai que c'est important de les combiner un petit peu tous. Pour avoir une meilleure.
D'après ce que j'ai compris, il faut tout faire.
Protection.
Hein. C'est ça. Hein. Je fais que me laver les mains, par exemple, me dit le poulet, donc pas le reste, et tousser et éternuer dans mon coude. Alors ça, on n'en a pas parlé, mais effectivement, c'est un geste qu'on voit plus qu'avant.
Oui, tout hein. à fait. Oui.
Alors, voilà, on arrive à la fin du sondage. Je vous le montre d'ailleurs, les amis. Hop, vous l'avez ici. Pratiquez-vous ces gestes barrières ? Oui, avec rigueur. Donc vraiment, ces 3-4 gestes qu'on a évoqués, et tous et de façon régulière, 12%. Donc on voit quand même qu'on a un sujet. Hein. Oui, de façon incomplète, 74%. C'est un beau chiffre.
C'est déjà très bien.
Et le non, non, vous ne pratiquez pas ces gestes barrières.
14%.
Que 14%. Je trouve que c'est pas beaucoup.
Oui,
vous en pensez quoi ?
C'est plutôt bien. C'est vraiment plutôt bien. Oui, tout à fait.
Voilà. Il y a quand même 3 personnes qui ne savent pas. C'est pour ça que je propose toujours. On n'est pas réveillé.
Réfléchissent.
Voilà. Perso, c'est les poignées de porte. J'essaie au possible de ne pas utiliser la main. Alors ça, j'arrête. Moi, c'est un vrai sujet, les poignées de porte. Ça me panique. Parce que les poignées de porte, on en touche quand même non-stop. Et à chaque fois, on se dit, ah bah oui, mais...
C'est pour ça qu'il faut, tant qu'on n'est pas sûr d'avoir les mains propres, éviter de se toucher les yeux, le nez, le visage. Et puis, dès qu'on arrive dans... Soit chez soi, soit au travail, on se lave les mains et puis...
Maxime Acra, étudiant en médecine, force à toi, j'espère que ça se passe bien. Je fais attention à tout. Ouais. Perso, celui que je ne fais pas, c'est l'aération en hiver. Si, docteur, si on devait classer les trois gestes barrières parmi ceux les mieux réalisés par les Français et les moins bien. Alors, lavage des mains, le plus partagé, le mieux fait. En deux, le masque. Et en 3, le moins fait, ce serait l'aération des pièces, peut-être ?
Oui, probablement. Après, le masque, il y a encore des progrès.
Il y a, il y a Lucas qui est là et qu'on salue. J'espère, Lucas, que le sport s'est bien passé. Qui demande si le stream s'est bien passé. Lucas, c'est le fils de Valérie. Et que dis-tu, Lucas ? Attends, je remonte sur ton message. Est-ce que maman s'est bien débrouillée ? Oui, oui et oui. Oui, le live s'est bien passé. Et oui, ta maman s'est très bien débrouillée. Qu'est-ce que vous pensez de l'exercice d'ailleurs ? Parce que vous m'aviez dit que c'était votre premier stream.
Ah oui, oui.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Bah, c'est très sympa.
C'est pas mal, hein ?
Oui, 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 c'est très sympa. Il y a une belle communauté, beaucoup d'échanges, beaucoup d'échanges d'expériences personnelles. C'est très réactif. Non, c'est chouette.
C'est ça qui est intéressant. Et puis ça rend très concret les questions qu'on se pose le matin. Alors, nous, on fait une revue de presse tous les matins et on parle de plein de sujets. Ce matin, on parlait de l'interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans. Est-ce qu'il faut le mettre en place ou pas ? Donc ça, ce sont des débats qui, parfois, peuvent être très théoriques. Mais l'intérêt du chat, et on l'a vu ici sur la question des gestes barrières, c'est qu'on a des exemples concrets.
Oui, oui, oui.
Et je cite mon petit frère de 11 ans qui a accès aux réseaux sociaux et tiens, dans telle école, voilà. Donc ça, c'est intéressant. Dis-lui d'ouvrir sa chaîne Twitch carrément. Dis Jared. Bon. Si un jour vous voulez ouvrir votre chaîne Twitch, vous me dites quoi. Mais à mon avis, vous avez un quotidien déjà qui est très pris. Merci les amis. Il y a aussi une impossibilité de certains gestes. Ah oui, encore faut-il que la société soit le permette. Dit Kitasugi, dernièrement dans un restaurant, je me suis retrouvé bloqué parce que pour sortir, il fallait que je me resalisse les mains alors que je venais nettoyer. Ah oui, voilà, c'est grand classique. Attendez. On va aux toilettes au restaurant, on fait tout bien, on se lave les mains, et pour sortir, il faut ouvrir une porte, la porte des toilettes.
Oui. Alors des fois, on peut faire un peu de coude quand on y arrive.
Ok, exactement.
Pour le lavage des mains aussi, quand on n'a pas d'eau et de savon à disposition, il y a toujours le gel hydroalcoolique qui est intéressant.
J'ai perdu le réflexe, moi, j'ai plus ça. Ouais, il faudrait.
C'est un moyen de pallier l'absence d'eau et de savon. Des petits flacons.
Moi, j'avoue que j'ai perdu ce réflexe. Notamment, moi, le matin, j'emmène les enfants à l'école en métro. Donc, je parlais de la fameuse barre. je vois la barre, je fais waouh ! Qu'il y a combien de virus sur cette barre ? Et là, effectivement, on se gratouille le nez après et on a beau faire attention et bim, quoi. Voilà. Moi, je dis souvent à mes invités qui ne connaissent pas Twitch. Le temps passe très très vite sur Twitch. 1h06 qu'on discute. Vous avez vu ?
Eh ben.
Hein, qu'on avait échangé tous les deux pour préparer cela, je vous avais dit hein, que sur Twitch on a le temps, mais que le temps passait très vite.
Tout à fait, voilà. C'est vrai.
Est-ce que vous voyez des choses qu'on n'aurait pas évoquées qui vous sembleraient importantes par rapport
à
notre thématique ?
Hein,
ah bah oui, quoi, bah ça continue. Ouais. Ah, bah, je vais. Mais en fait, littéralement, on pourrait passer 10 heures ensemble, mais peut-être que vous avez des engagements. Voilà. Pardon,
il y a des blagueurs aussi.
Vous l'avez vu aussi. Pardon, je les lis tous, mais là je vous préserve un petit peu. C'est aussi ça qui est sympathique en fait. Parce qu'on peut parler de sujets très sérieux ici et sans se prendre tout à fait au sérieux. C'est-à-dire, je trouve que c'est aussi ce qui est. Change par rapport à un média traditionnel et parfois on est avec des codes d'expression plus naturels, on peut aussi faire passer mieux certains messages et l'humour, merci Sugar qui nous remercie pour cet échange et l'humour je trouve permet aussi de
c'est un bel outil
parfois d'aborder des sujets très sérieux sans forcément être moralisateur et donneur de leçons. En tout cas un grand merci.
Merci à vous.
Parce que
merci.
Pour quelqu'un dont c'était le premier stream, je l'ai trouvé extrêmement à l'aise. Alors peut-être que votre fils vous a bien coaché aussi.
C'est ça.
Il vous avait un petit peu.
un bon coach.
Merci les amis. Elle a, pour terminer. Oh, attendez, j'ai une petite. Santé publique France, qui, vous l'avez compris, hein, on est dans le cadre d'une opération, d'une OP, nous a proposé de faire cette intervention chez S-Barrière, m'a fourni un outro. Donc c'est un petit visuel de sortie de live pour que ce soit joli. Est-ce que vous êtes prêts ? J'ai tout préparé. Hier soir, attention, normalement c'est moi qui ai tout préparé, attention. Tadam ! Attendez, c'est une vidéo, ça, normalement ça bouge. Ah bah j'ai raté. Ah si, ça bouge. C'est moi qui l'ai fait. Je suis très fier.
Magnifique.
On m'a dit hier soir, est-ce que tu pourrais mettre un outro ? Je dis, les gars, c'est dans quelques heures et on t'envoie tout. Bah, et là, on va faire un truc... Qui est formidable sur Twitch, c'est le raid. Alors le mot est barbare, mais la réalité derrière est très jolie. Le raid, c'est quand vous envoyez votre communauté, là, les gens qui sont avec nous, là, il y a 3000 personnes avec nous, sur une autre chaîne. Vous savez que des streamers et des streameuses en France, il y en a plein. Et en fait, vous basculez votre audience sur une autre chaîne. Je prends toujours le même exemple. C'est comme si à la fin du journal de 20h, le présentateur disait de TF1, par exemple, « Oh là là, il y a un programme sur Arte qui est formidable. Je vous envoie là-bas. »
D'accord.
Bon, évidemment, en télé, ils ne font pas ça. Parce que les enjeux d'audience et publicitaires ne sont pas les mêmes. Eh bien, nous, on fait ça ici. Donc, par exemple, si on va là, on a tous les amis, les copains, je vais vous montrer, qui sont en live actuellement. Voilà, des streamers, des streameuses sur du gaming. Sur de l'actualité, sur de l'art, sur de la cuisine. Je suis des gens qui sont des passionnés de jardinage et qui ont une chaîne Twitch. Il y a un chocolatier dans le sud-ouest qui s'appelle Paul Gardère qui stream sa fabrique de chocolat. Voilà. Il y a plein de choses. Il y a Mathieu Burgalassi qui est sur l'actualité en ce moment. Il y a Rivenzi qui est un streamer passionné d'histoire et de jeux vidéo qui est en live. Il y a Alpha. Il y a des streamers qui jouent à Valorant, le jeu qu'on évoquait tout à l'heure ensemble. Non, Jardistream, tenez. C'est lui.
Tu vois là, regarde là.
Voilà.
Tout ça, ensuite...
Bon bah écoutez, c'est pas mal ça, non ? Alors Jardistream, c'est un streamer qui a créé sa chaîne Twitch il y a quelques temps, ouais, qui a créé une vraie communauté, et passion jardinage. Et il filme, voilà. Donc, bon, en plus, contre les virus de l'hiver, être en extérieur, c'est pas mal. Donc les amis, on va aller voir Jardistream, voilà, dont le menu aujourd'hui est bouture de vigne et tour du jardin. C'est une chaîne que j'aime bien. Et hop, on va charger ce raid. Voilà. Donc là, on indique en fait la chaîne qu'on raid. Voilà. On fait ça et ça va charger et nos viewers vont basculer. Voilà. Et parfois découvrir une autre chaîne. On fait découvrir le travail des uns et des autres ainsi.
En tout cas, merci.
Un grand merci, Valérie.
De m'avoir reçu.
C'était un plaisir.
Merci à tous pour ces échanges.
C'est sympa, hein?
Ouais. Très sympa.
Revenez à l'occasion, hein?
Avec
on aura peut-être d'autres sujets à aborder ensemble. Les amis, on va voir Jardistream. Je remercie encore Valérie de nous avoir rejoints pour toutes les explications. Et merci à vous pour la qualité de cet échange. Hein, vous êtes vraiment géniaux. Merci à Santé publique France, vous l'avez compris, qui était à l'origine de cette communication ce matin sur les gestes barrières. Je pense qu'on a dit des choses intéressantes. On va voir Jardistream et je vous retrouve sans doute ce soir pour du gaming, peut-être pour du Valorant, le jeu qu'on évoquait tout à l'heure. Ouais, merci à vous pour vos messages, vous êtes top. Merci, à très vite. Prenez soin de vous et attention à ces gestes barrières.
C'est le rendez-vous des glandules, là, ou quoi ?
Vous êtes un grand malade mental !